Je suis donc avec cette personne qui s'appelle Philippe Poutou et qui a...
C'est décalé, t'as vu?
Ouais, c'est un peu décalé. Nous, on se voit un peu en décalé.
Ils nous entendent en direct.
Mais ils nous entendent en direct, ça a l'air d'être
l'image
pas mal. Sinon, on fait comme ça.
Mais eux, ils ont ça quoi là-haut?
Là, c'est, tu vois, là, ça marche bien.
Ah
ouais? Ouais, c'est nous qui sommes un petit peu décalés sur l'image. Certainement pour des raisons qu'on est très écoutés, je pense au Pentagone, car on va faire quelque chose qui va certainement révolutionner.
Il y a de la brouille sur la ligne.
Ouais, je pense que c'est ça. Qu'est-ce qu'on disait? Donc, Philippe Poutou qui a une expérience de stream. Parce que là, bon, Philippe Poutou, vous le connaissez, évidemment, le grand jouteur, on ne le présente plus, qui a mis à l'amende bien des politiques et bien des éditorialistes, mais... Philippe Poutou est un jeune qui s'est lancé sur Twitch.
Oui,
avec ta librairie. Vas-y, on n'a qu'à parler de ça le temps que les gens ils arrivent. 170 déjà, tu vois, ça monte un peu.
Oui, on a fait quelques rencontres diffusées en direct.
De la librairie.
Donc, ce sont des amis qui font le Twitch, qui s'occupent de la technique.
Hein. Alors moi aussi, on va saluer Goodway Prod qui sont à la technique derrière, qui m'ont fourni un micro qui ne marchait pas, j'allais dire. Mais ça se trouve, je l'ai juste mal branché. On va pas trop les incriminer.
Tu veux pas retenter?
Parce que on peut retenter parce qu'on a deux micros, mais dans le temps que les gens ils arrivent, il y a déjà 323 personnes. Je vais te dire que là ça déboule. Et ça se trouve dans les regardez. À 577, on est à une assemblée. Est-ce que là si je fais poète poète sur le micro, ça fait quelque chose? Si ça vous pète les oreilles, c'est qu'il marche. C'est peut-être aussi le bug du micro, ça peut être Goodway, mais on vous entend très bien avec un seul. Allez, tu sais quoi, on va pas s'emmerder. Tu sais, c'est la gauche, faut pas non plus que ça marche du premier coup. Sinon, les gens...
On peut partager aussi.
Ouais, on va se mettre ça. Non, mais il est multi-machin.
Après, comme c'est vrai que sur BFM, on a tous son petit micro.
Ouais, le problème, c'est...
Ça marche bien aussi.
Ben oui, mais c'est pour ça qu'on est un petit peu à la bourre.
Ouais.
T'imagines si un jour on a de l'oseille et des trucs qui marchent, laisse tomber, ils sont pas prêts. Alors ça, tout ça, c'est de la vraie sueur. Parce que il fait chaud, mais je
fais chaud, ouais, c'est vrai.
On fait chaud chez vous. On est déjà 547. Poutou président. Alors, ça va faire partie des questions. Hein.
Ça va pas suffire 547.
c'est ton nombre d'électeurs de la dernière fois. Ils sont tous...
J'avais compté un peu plus.
On t'a menti parce qu'on voulait pas te donner les vrais chiffres.
C'est vrai que pour pas démoraliser la France.
Voilà, exactement. ça va faire partie des questions. Alors comment ça va se passer pour les 500 qui sont là? On va juste attendre un peu, encore 5 minutes que tout le monde arrive. On va parler quand même constitution, mais surtout on va parler de l'expérience de Philippe dans la campagne présidentielle. Qu'est-ce que c'est une campagne présidentielle? Qu'est-ce que nous impose la 5e République finalement? C'est-à-dire cette petite course de petits chevaux, d'essayer de se démarquer des autres. Et on va partir de ce livre. Publicité. Voilà, qui s'appelle Un petit candidat face aux grands médias. Il y a des petits guillemets.
Des guillemets à petits et à grands. Hein.
Exactement. Ouais. C'est un livre de Philippe Poutou, dis donc, l'auteur Philippe Poutou, Julien Salingue et Béatrice Valilo. Et ça raconte justement comment toi tu as vécu toutes ces campagnes avec le fameux moment de grâce. Je pense qu'on en parlera, il y aura des questions. Et puis on répondra aux questions du chat. Moi j'ai bossé de mon côté. Les gars de Goodway, alors. Pareil, on a eu énormément de propositions. Donc, on a un site que je t'explique quand même, Philippe, où tu mets les pieds. Les équipes de Goodway, pardon, ont créé un site internet. Ça te fait peur, ça déjà. qui s'appelle Écrivons-la, où les gens mettent des propositions d'articles de constitution. Et regarde ça, il y a 1048 contributions, 577 articles. Donc, les gens s'intéressent quand même à cette thématique.
Des articles rédigés, des articles de la constitution.
Non, des gens qui proposent, qui disent il faudrait faire ci ou ça. Sur le site directement, et après on a fait un petit cahier de doléances aussi, ça fait jamais de mal. Et pareil, les gens participent avec des votes, tu vois.
C'est repris par l'Assemblée nationale en vue de faire des amendements?
Rien du tout. Non, on fait ça vraiment dans notre coin, et quand l'Assemblée nationale va s'en rendre compte, paf, il sera trop tard, on sera déjà là. Bon, j'aurais peut-être pas dû dire le plan du coup. Merde,
forcément, t'en as un qui écoute.
C'est nul en stratégie mortelle. Alors, on est 695. Allez, vas-y, on dit qu'on commence à 10. Ça vous va, les gens? Est-ce que vous êtes contents, les gens dans le chat? Est-ce que vous êtes contents de voir Philippe Poutou en chair et en sueur? Le grand amour de Guillaume. Effectivement, il y a plus que de l'amour, c'est de l'amitié. Hein. Trop heureuse. Les gens sont contents, regarde, il y a des cœurs. Évidemment, oui, avec des émojis burqa. Je ne sais pas ce que c'est. Regarde, il y a plein de nouveaux aussi. Ça, c'est le message des gens qui utilisent Twitch pour la première fois. Est-ce que vous condamnez le Hamas? Putain, il y a Léa Salamé dans le chat. On est mal.
J'avais perdu l'habitude de cette question.
Eh oui, t'as vu? Même là, putain, c'est pas vrai.
Est-ce que vous condamnez la violence?
Entre pro et Bluetooth, ton cœur balance. Ah oui, oui, ça, je voulais vous dire. Je pense que vous avez constaté, mais il y a un effort de fait sur la décoration. Voilà, parce que la dernière fois, c'était lamentable. C'était un mur, le même mur.
Tout blanc.
Finalement, tout blanc. Là, donc, voilà, il y a du petit autocollant. Donc, il y a Pascal, hein, qui est là, avec mon bouquin. C'était le moment où il faisait la publicité pour mon livre. Ouais, relation toxique avec Pascal, mais on n'est pas là pour parler de ça. Du coup, est-ce qu'il y a Aymeric qui gratte à la porte? Écoute, pas pour l'instant. Il n'y a pas d'orque, non, c'est vrai. Toi, je rajouterai pour la prochaine fois. Et d'ailleurs, comme il fait quand même encore un peu cheap, ce décor, si vous avez des autocollants, des trucs, machin, faire de la promo, envoyez-moi à l'adresse de Radio Nova. C'est 10 rue Maurice Grimaud, 75 018 Paris. Vous m'envoyez des trucs, comme ça je les mets en déco derrière. Maurice Grimaud, est-ce que ça te parle, Philippe?
Non, je connais pas.
Préfet de police pendant mai 68.
Ah bah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est ça?
Ouais, c'est le Didier Lallemand de mai 68. Mais qui avait fait une petite note aux flics à l'époque, en leur disant attention, pas de dérapage, pas de bavure.
Ouais.
C'est bon. Je sais pas si
aujourd'hui on n'imagine pas trop.
Pas tellement.
Non. Un ministre qui
un peu l'inverse. Il dit allez, faites feu de tout bois. Écoute, on est 800. Je pense que là, là on peut y aller.
T'avais pas dit qu'on démarre à 10 000?
Ok, on attend 10 000. Voilà, prévenez les gens, allez toquer aux portes. Ouais. Parce que Philippe Poutou, il faut au moins que ce soit 10 000, quoi. Parce que là, vous êtes 802. Ouais, quand tu fais BFM, c'est quoi comme audience?
Ouais, c'est vachement plus, quoi.
Ouais. C'est,
mais on n'a pas le compteur, on sait pas.
Ah oui, c'est ça. Putain, ils auraient le compteur, ouais. Mais c'est pas si fou
que ça, BFM. On a une petite livraison, là, qui arrive.
On a la production, une grosse production ici, qui nous apporte des glaces.
Du rafraîchissement.
Merci.
Merci.
Parce qu'une bonne constitution s'écrit avec des glaces. Et en plus, c'est pas fait exprès, mais c'est des glaces à la mangue. Ouais. Est-ce que t'as la rêve de la mangue ou pas?
Non, pas du tout.
T'as pas suivi Louis Sarkozy?
Ah oui.
J'ai goûté une mangue en Colombie.
En Colombie.
Après une heure et demie de balade à cheval. Ah, tu connais pas, non. Première red flag pour Philippe Poutou, il ne connaît pas Louis Sarkozy dans le texte. On est bloqué à 802, donc...
Bon, allez, on démarre.
Ouais, on démarre. Alors, déjà, Javel, première question. Est-ce que la Constitution, c'est un truc qui t'intéresse?
La cinquième, là. Forcément, de plus en plus, parce que ça fait partie des choses... On est tellement dans l'anticapitalisme ou dans l'idée des luttes et de la transformation radicale de la société qu'en fait, on s'embarrasse pas de ce genre de choses. Quoi. La Constitution, pour nous, c'était presque perdre du temps de discuter de ça, parce qu'elle était tellement éloignée de la démocratie, du pouvoir ou de la société telle qu'on l'imagine, telle qu'on la voudrait. En fait, on se dit, bon, il faut balayer tout ça, et puis...
C'était pas un sujet, quoi.
Même moi ou d'autres, et puis, enfin, en tout cas, on n'en discute pas, quoi. Mais c'est vrai que là, avec toutes les remises en cause de ce qu'on appelle l'état de droit...
Oui,
aujourd'hui, d'ailleurs, c'était le dernier jour du congrès de la LDH, ça parlait beaucoup de ça, de comment on défend l'état de droit et tout ça. Donc, derrière cette formule-là, on a appris un petit peu à y réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire, parce que c'est facile de dire, enfin quelque part c'est facile quand t'es révolutionnaire, tu dis on balaye tout ça, et puis après on voit, on reconstruit, et puis on voit, mais bon ça suffit pas, donc il faut bien discuter de l'existant, et puis même de réfléchir comment ça peut progresser, comment ça peut évoluer, on n'est pas obligé d'attendre la révolution mondiale.
Ouais, il y a le côté grand soir.
Et donc du coup, on est obligé de s'intéresser à tous ces aspects-là, parce qu'il y a à la fois un aspect technique ou un aspect juridique, mais l'aspect juridique, c'est forcément lié à des aspects politiques. Donc voilà,
c'est ça qui définit.
Mais je ne suis pas du tout compétent là-dedans, pas du tout capable d'écrire un seul article.
Mais si, tout
ou
le
alors
monde est compétent.
De dire, d'essayer de mettre en forme quelques revendications, en fait. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour nous, la démocratie?
Et là, regarde, ça, c'est... Est-ce que tu l'as déjà lu?
Forcément, moi j'ai lu le livre de Ginny Mériot, donc il y a des extraits.
Alors Ginny, elle est encore en vadrouille, c'est pour ça qu'elle n'est pas avec nous.
Il est là, son...
il est là, voilà, Constitution.
Ouais, mais c'est vrai qu'il y a un décalage. Il a disparu.
Non, rien, il a apparu, c'est bon. Constitution Eugénie Mériot qui sera de retour dans ce programme. Je parle vraiment comme Guy Lux sur cette chaîne Twitch. Je ne sais plus la date, je vous dirai à la fin, je vais regarder ça. Mais en tout cas, elle est encore un peu en vadrouille. Et comme Philippe était de passage de par chez moi, je me suis dit, tiens, on va interroger Philippe là-dessus. Donc Constitution, tu t'es jamais vraiment intéressé au truc. Et dans les luttes, dans les discussions que tu avais, c'était pas un sujet, quoi.
Bah ouais, ça nous paraissait éloigné de notre activité.
Mais du coup, quand tu dis, on pige ce qu'il y a à déconstruire, ce qui va pas, mais reconstruire, ça serait quoi, tu vois?
Ah ouais, mais de toute façon, c'est plein de choses sur lesquelles il faut qu'on réfléchisse.
On va réfléchir à ça, on a deux heures. Hein.
Même tout à l'heure, là, au congrès de la LDH, ça discute beaucoup de l'état de droit, la défense de l'état de droit. Nous, on n'a pas tellement l'habitude de parler comme ça. Mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'on met derrière cette formule-là? C'est une formule quand même relativement institutionnelle.
Enfin, oui, mais est-ce que c'est pas un peu...
Mais mais surtout, de s'entendre de quoi on parle, quoi.
Et alors, c'est quoi l'état de droit?
Moi, ce que j'aurais dit, c'est qu'en fait, nous, on discute plus facilement de démocratie, ou démocratie directe, où on voit mieux la question du pouvoir aussi, le pouvoir qui est accaparé par une classe dominante, et comment on peut discuter d'un pouvoir partagé, ou en tout cas d'un pouvoir sous contrôle de la population, puis même un pouvoir direct de la population, et sous quelle forme cette population pourrait s'auto-organiser.
Mais ça c'est purement constitutionnel.
On n'y met pas, voilà. Et après, comment tu peux construire ça, comment tu peux développer, mais on a l'impression que la réforme de la Constitution, en fait, il faudrait tellement tout balayer pour pouvoir mettre en place autre
chose. Mais c'est ce qu'on va faire, on est en train de tout balayer. J'ai pas le matériel adéquat, mais non, mais en vrai, je suis parti du même constat que toi. Enfin, on n'est pas que deux à faire ce constat-là, mais que ça nous bloque, quoi. Je sais pas, elle est où, tiens, elle est là. Qu'il y a plein de choses qui nous bloquent là-dedans et que ça fait pas. On a l'impression que c'est un peu un texte sacré.
Ouais.
Tu sais, il y a De Gaulle et tout, machin.
D'ailleurs, normalement, c'est pas gravé dans du marbre. C'est pas, parce que là, tu l'as en papier recyclé.
C'est du 80 grammes, je pense. C'est du marbre très très fin. Et moi, j'avais un peu ce constat-là qu'on pouvait discuter autant tant qu'on voulait, qu'on pouvait faire des réformes à la marge, mais que tant qu'il y avait ce machin-là qui nous bloque, et la démocratie représentative fait que t'es obligé d'élire des représentants et que le problème vient de là.
C'est pour ça que je voulais faire ça. Nous, on a l'impression, mais après, c'est aussi, il faut affiner parce que, encore une fois, comme on est dans l'idée d'une perspective révolutionnaire, radicale, on se dit, même changer la Constitution, mais pourquoi faire? Si on change une Constitution, est-ce que ça change la société? Ou est-ce que ça change les rapports sociaux? Est-ce que ça change la démocratie? Et parce que nous, on a vu l'expérience, enfin rien qu'en France, parce qu'après, on pourrait travailler ou réfléchir sur d'autres pays. Mais la France, on en est à la 5e République, donc c'est une nouvelle constitution depuis 1958. Mmh. Hein. Et là, il y en a qui disent il faudrait passer à la 6e République, donc refaire une constitution. Mais nous, on se dit, mais... refaire une constitution alors que quand on passe de la 4 à la 5, on peut pas dire que le progrès soit extraordinaire. Quand on passe de la 3 à la 4, c'est pas non plus très flagrant. Et qu'on revienne à la première constitution au moment de la Révolution française, à la limite, ça serait intéressant de revenir sur celle-là, qui discutait peut-être plus clairement du pouvoir du peuple et même du droit à se mettre en colère.
Mais il y avait déjà des débats, en fait, il y avait un peu les mêmes débats qu'aujourd'hui.
Ouais, mais du coup, on dit que des fois, cette discussion-là, en fait... Ça rime à quoi à partir du moment où de toute façon au fond rien ne change, le pouvoir il reste accaparé et il reste sous contrôle des ultra riches.
Oui, mais est-ce que c'est pas la démocratie représentative qui nous impose ça? Parce que t'es obligé de déléguer ton pouvoir, donc d'élire des gens.
Ouais.
Et bien, les gens qui se présentent forcément c'est des gens qui ont le temps, donc c'est forcément des gens qui ont plutôt de l'oseille. Enfin, il y a un truc structurel là-dedans.
Ouais, et donc après ça peut vouloir aussi, la constitution ça peut être une sorte de paravent, tu sais,
ça peut être de l'enfumage, ouais.
Ben ouais, mais c'est pas que ça, évidemment, parce que c'est quand même vachement lié aussi à un rapport de force dans la société, c'est lié à des combats. La constitution, elle a évolué aussi au fil des décennies, en fonction du rapport de force, tout le temps, quoi. Mais en même temps, c'est comme s'il y avait cette illusion d'une société qui pourrait être démocratique, qui pourrait donner du droit à tout le monde.
Ouais.
Et la réalité, il y a quand même un décalage énorme entre ce qui est affirmé dans la Constitution, puisque ça reprend quand même la Déclaration des droits universels.
Ouais. Non, mais le texte, il y a des trucs jolis.
Après, comment, et on le sait, il y a quand même un écart énorme entre ce qui peut être écrit, de ce qui peut être... ou même un écart énorme entre les déclarations de grands démocrates comme Macron ou Sarkozy qui sont tellement soucieux de la vie de tout le monde.
Je me prononce pas parce que je suis neutre.
Ouais,
j'ai jamais trop donné mon avis. Dans l'article, tu vois, dans l'article titre premier, de la souveraineté, article 2 de la Constitution. Le principe de la République, c'est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Ouais.
C'est joli, tu vois.
Ça, c'est écrit, ça.
C'est écrit, c'est écrit, ça, c'est inscrit. Voilà, ouais. C'est inscrit. Ouais. Dans le marbre ouais. 80 grammes.
Sauf qu'on sait que c'est pas vraiment ouais, voilà. vrai.
Donc, c'est pas effectif, je suis d'accord avec toi. Est-ce que. Putain, on est 1085, vraiment, vous êtes en feu. C'est, merci beaucoup d'être là. On va peut-être prendre quelques petites questions du chat, parce que la dernière fois, je me suis fait engueuler. Ça m'a dit, ouais, mais il faut donner la parole au chat. Tu, ouais, je suis tout jeune.
Tu fais du Twitch et en fait, tu fais pas.
J'étais là, alors ça va.
On n'est pas sur CNews ici, on répond.
Oui, oui, oui. Ah oui, c'est vrai que t'as l'habitude et tout. Alors, le chat, est-ce que vous avez déjà des questions dans ce début de discussion? Comment question Salamé, comment ça va? C'est vrai quoi, je t'ai pas demandé comment ça va.
Ah oui, c'est sa question.
Oui, ouais. Ça va.
Mais moi, je sais pas si elle m'avait demandé ça.
Non,
ça me dit rien. Mais ça va bien. Ça va bien.
Ça fait longtemps que tu l'as pas vu, la Salamé.
Oui, et ça fait longtemps que je traîne plus sur les plateaux ouais. médias.
Et ça, on va en parler. On va parler de ça.
Et ça manque pas en fait.
Ça manque pas. Non. Ouais.
Alors là, j'ai fait récemment. Le Média.
Oui.
Et bon, bientôt l'émission de l'Humanité. Mais là, on
oui,
est
dans, là, t'es dans ta zone de confort.
Voilà, on est dans des médias.
Encore que l'humain.
Un peu comme l'émission de la dernière, en fait. On est presque
voilà.
entre nous, quoi.
Oui, mais ça fait du bien de temps
cool,
en temps.
Voilà. On se dispute moins. Et,
une safe place. Alors, le chat, est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous avez vraiment trop chaud et vous voulez juste nous écouter parler? Parce qu'on est deux mecs blancs hétérosexuels. Ouais. Donc, nous, on peut parler tu vois, pendant des heures. On a la confiance. Valeur anarchiste. On peut parler communalisme. Quelle est la vision communalisme du NPA? Attends, je vais noter aussi des trucs. Parce qu'on va essayer de te...
Ouais. Dans les visions du NPA, c'est difficile parce que...
Est-ce qu'il y a une vision au NPA?
Ben, non, il y en a plusieurs forcément, mais c'est aussi l'idée, quand un petit parti, on pourrait imaginer un petit parti, il va plutôt facilement être homogène, puisqu'on est moins nombreux. Mmh. Mais c'est pas le cas, en fait. Et,
c'est oublié que c'est un petit parti de trotskistes.
Non, on n'est pas trotskistes.
Ah, putain.
On a aussi des libertaires, il y a des trotskistes, il y a des marxistes, mais pas que. Mais bon, on est tous des anticapitalistes, en fait.
Oui, ça, hein, oui.
D'où
oui.
le nom. Ouais. Nouveau, qui n'est peut-être pas complètement nouveau, mais...
Ça veut pas dire même par ailleurs.
Non,
d'accord. Okay.
Et donc, anticapitaliste. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que quand on est petit, on n'a pas tous les outils qu'on aimerait avoir pour se former, pour réfléchir. On n'a pas l'argent, on n'a pas la disponibilité. Enfin, tout est un peu toujours dans l'urgence. Et donc, en fait, on a un petit défaut qui est lié à des petites organisations. C'est ce manque de temps qu'on aurait de réfléchir d'élaborer des choses. On a cette difficulté-là. Et on s'en rend bien compte qu'on n'élabore pas tant que ça, en fait. On est tout le temps à répondre à des problèmes dans l'urgence, à essayer de militer, à formuler tout ce qui ne nous va pas, tout ce qui nous révolte. Et après, on a quand même une grosse difficulté à formuler. Et on se rend bien compte qu'en fait, pour arriver à formuler des choses, pour arriver à avoir des réflexions un peu plus profondes, ben, ça passe par des liens très riches avec d'autres aussi. Quoi. Mmh. On a besoin de ça. Et ça,
C'est-à-dire qu'en interne, il y a des débats, j'imagine.
Ben oui, il y a des débats, bien sûr.
Ouais. Mais est-ce que vous avez, justement, est-ce que vous avez une sorte de, je sais pas, de règlement intérieur, de constitution interne, de
modus operandi? Ce qu'on appelle les statuts, par exemple.
Les statuts, ouais.
On a des statuts.
Alors, c'est intéressant, c'est les statuts démocratiques.
Qui sont nous-mêmes, on se rend bien compte qu'on écrit plein de choses et qu'on est pas en capacité toujours de respecter.
Ben voilà.
Il n'y a pas que la constitution, quoi. Alors nous, il y a peut-être un écart moins grand entre les statuts et la réalité du parti. Mais ceci dit, c'est pas si simple que ça, parce que les statuts ou même tous les textes fondateurs, par exemple, d'une organisation, c'est notre volonté. C'est voilà comment on voudrait être, ce qu'on voudrait être,
l'idéal quoi.
Et puis cet idéal là ou en tout cas cette volonté là elle est pas toujours facile à mettre en œuvre.
Par exemple,
donc on se rend compte du décalage des fois qu'il peut y avoir entre la vie interne, les rapports internes entre militants et militantes, et puis qui est en décalage avec les statuts tels qu'ils sont rédigés. Et voilà, mais ça je crois que c'est vrai pour toutes les organisations, mais même
toutes
nous quoi, même nous on a cette difficulté là. Mais je réussis beaucoup sur le fait que quand on n'est pas nombreux, parce qu'on n'est pas nombreux,
on est
un peu plus de 1000 militantes et militants.
Comme nous,
avec
des sympathies,
voilà, avec évidemment autour de nous des compagnons de route. Mais après, c'est cette difficulté-là de. En fait, mais il y a nous, le NPM, on pourrait dire ça de plein d'organisations de la gauche radicale, ou même plein d'organisations dans le milieu associatif ou syndicaliste. On est quand même très handicapé, ou en tout cas, on est très fragilisé par l'émiettement. par le fait que on est quand même beaucoup à chacun vivre une vie à part. Les orgas se fréquentent pas tant que ça. On se voit dans les manifs, on se voit dans certains événements.
Mais encore une fois,
on
n'a
pas l'habitude de travailler ensemble. Et c'est vrai que c'est une question aussi de disponibilité. C'est une question de disponibilité. Et on s'en rend bien compte, l'énergie qu'il faudrait pour arriver à mettre en place des vraies structures de collaboration. Ouais. Alors en plus, c'est parasité souvent par des réflexes sectaires ou boutiquiers qui en plus ajoutent à la difficulté. Mais ceci dit, voilà, on manque de ça.
Et là, comment vous délibérez alors ? Par exemple, prenons le cas le plus simple. Tu t'es retrouvé, donc t'étais président, très beau lapsus. T'étais candidat à l'élection présidentielle. Comment ça s'est décidé ? Est-ce qu'il y a eu un vote ?
Ah oui, quand même.
Il y a des votes. Parce que ça, les votes, tu vois, ça peut être un tirage au sort, peut être un consensus,
un peu, comme Gabriel Attal ou Bataillon, ça, c'est des votes, tout ça.
Enfin, c'est très.
C'est tout, c'est des. Je sais même pas si c'est des partis, c'est des petits groupes entre eux, et puis hop, ils désignent.
Souvent, ils désignent, et après, ils créent le petit groupe.
Non, mais nous, oui, bien sûr, on a eu. Mais là, d'ailleurs, on est dans un processus équivalent à chaque élection présidentielle. En fait, on a une consultation qui est sur plusieurs semaines de l'ensemble des camarades de l'organisation. On fait redescendre ça dans les comités et donc avec les options qu'on a dans la prochaine échéance, c'est la présidentielle de 2027. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On fait quoi ? Comment ?
Donc là, et donc il y a des camarades concrètement qui comment vous décidez ?
Ah là, c'est tous les
y aller ou pas. Par
exemple. Il y a des camarades.
Concret. Et après, je reviens à vous le chat. Je vous oublie pas.
C'est comme tout. Mais là, c'est la vie de toute organisation, mais pas que politique. Hein, les syndicats, c'est des textes, c'est des plateformes. C'est de dire, nous, on pense qu'il faut faire comme ça. Nous, et s'il y a des désaccords, un autre groupe va dire, nous, on pense qu'il faudrait faire plutôt de cette manière-là.
Donc au sein
du
MNL,
t'as plusieurs options. Plusieurs options. Ça se fabrique au moment de l'échéance à discuter. Et ça, c'est transmis dans toute l'organisation, et puis on essaie de faire la discussion la plus large possible.
Congrès à un moment donné.
Mais oui, c'est ce qu'on appelle une conférence nationale. Et la conférence nationale fait remonter tous les délégués qui ont été élus à travers toutes les assemblées générales dans les villes.
Ok. Assez classique, en fait.
On a une forme assez peu originale, d'une certaine
manière. Pas tant révolutionnaire que ça. Ça m'intéresse de savoir comment...
Ça peut l'être quand même original, dans la mesure où quand même il y a un souci démocratique de faire prendre position à tout le monde. Par exemple, je parlais tout à l'heure de Gabriel Attal. Je suis pas certain que ça se passe exactement de la même manière. Des fois, c'est le mec à le pouvoir, et puis qui décide.
Donc à la fin, il y a un vote, déjà, pour savoir si vous envoyez quelqu'un. Et après, j'imagine, il y a un deuxième vote pour savoir qui.
Ouais, c'est le même vote, en fait. Ça pourrait être très bien structuré comme ça. Mais là, oui, on va avoir... Je ne sais pas comment on va faire exactement, mais parce que pour la première fois, on a toujours... En fait, c'est vrai pour nous, mais pour d'autres aussi. En fait, on est, je le redis, on est anticapitaliste, révolutionnaire. Et tu as toujours un petit décalage quand on participe à une élection, surtout l'élection présidentielle.
Et oui.
Parce que l'élection présidentielle, en fait, qu'on dire ça, mais on veut pas être président.
Et mais ça surprend souvent les gens quand on dit.
Donc c'est pas si simple que ça à articuler quand t'es là. Bonjour.
Ça, on y reviendra, j'ai une question là-dessus.
On veut pas être président parce que c'est pas du tout démocratique, parce que le pouvoir personnel, c'est des trucs qu'on veut pas, et nous on discute du pouvoir d'une
autre manière. Imaginons...
Et comme on est des militants politiques, on considère que la participation à l'élection présidentielle, c'est normal, c'est légitime, parce qu'on a, c'est l'occasion de critiquer justement le manque de démocratie, de critiquer la société, et puis d'essayer de faire entendre une autre perspective politique.
Et imaginons que si tu avais été élu, t'aurais fait quoi? Tu nous aurais appelé,
on avait dit qu'on irait vers l'autodissolution, mais comme la perspective d'être élu était vraiment pas du tout crédible,
on
n'a même pas commencé à y réfléchir, tu vois. Mais voilà,
est-ce qu'on a répondu à la question, parce qu'on est parti du communalisme. Je sais même pas
si on a répondu au communalisme.
On n'a pas du tout répondu à la question. Tu vois, ça, c'est les vrais politiques, ça. On leur pose une question et paf, ils ont répondu à côté.
On discutait de la vie interne d'un parti. Donc, est-ce qu'on y va pas?
Est-ce que tu crains pas d'être corrompu par le pouvoir? Est-ce que quand t'as été question de Frenchonen, je sais pas si je prononce bien, alors par le pouvoir, est-ce que tu t'es senti dans une position de pouvoir quand t'es candidat à une élection présidentielle?
Non,
est-ce que t'as le côté un peu grisant de je représente des gens?
Le pouvoir, là, par contre, parce qu'à partir du moment où on gagne pas une élection, on n'a pas le pouvoir.
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Mais
t'as été conseiller municipal à Bordeaux. Petit pouvoir.
Mauvais exemple.
Non, mais
t'es élu dans une assemblée, mais c'est justement le problème de la.
T'as un pouvoir symbolique.
De la démocratie. La démocratie qui n'en est pas du tout une. C'est-à-dire qu'en fait, on parle beaucoup du pouvoir personnel du président de la République.
Ouais.
qui est une aberration complète. Autant de pouvoir, autant de moyens de génie, décision. Ouais. C'est complètement fou. Il y a même d'autres pays capitalistes ou d'autres pays pas tant démocratiques que ça ne fonctionnent de manière un peu moins personnelle. Bon, donc on a ce problème-là, mais il n'y a pas que la présidence de la République, parce que toute la structuration démocratique en France, enfin démocratique, les institutions, elles sont basées là-dessus. C'est-à-dire qu'un maire, par exemple, d'une commune, il a un pouvoir énorme et il peut décider beaucoup de choses en dehors du conseil municipal. Un président ou une présidente de région, pareil, président ou présidente de département, pareil. En fait, les conseils, c'est vraiment c'est une vitrine, quoi. La réalité du pouvoir, c'est très personnel partout. Voilà. Donc quand tu es conseiller ou conseillère d'une ville ou du département ou d'une région, tu n'as strictement aucun pouvoir. Là où tu en as un petit peu, c'est quand tu fais partie de la majorité, où là tu peux être adjoint ou vice-président ou vice-présidente, c'est comme ça que ça se structure. Tu as des rémunérations plus intéressantes, on va dire. Et tu as quelque part un peu de pouvoir, effectivement, parce que tu vas avoir des responsabilités ou dans le transport ou dans la vie sociale ou sur le logement. Et là, tu vas avoir forcément un peu de pouvoir de décision et un peu de, enfin, tu peux jouer un rôle, quoi. Mais sinon, la plupart des élus, par exemple, qui tous celles et ceux qui sont pas dans les exécutifs, qui sont pas dans les majorités, t'as strictement aucun pouvoir.
Tu fais de la figure, quoi.
Tu peux parler dans un conseil, tu peux intervenir, tu peux faire chier le pouvoir, enfin les critiquer, les énerver, tout ça, mais t'as strictement aucun pouvoir.
Tu te mets sur les réseaux sociaux et ça te fait une
partie
un peu tribunicienne.
C'est intéressant aussi parce que ça permet de faire entendre des choses. Nous, à la mairie de Bordeaux, c'était ça qui était plaisant, c'est parce que c'est le palais Rouen, c'est un vieux bâtiment du 19e siècle.
C'est un palais,
Puis t'as toutes, tu sais, les petites dorures. Bon, c'est un peu vieilli et un peu moche maintenant, mais t'es dans une enceinte très particulière. Et de parler de grève, de gens d'en bas, enfin, ou de résistance, ou même de soutenir la révolte dans les quartiers populaires, ça fait plaisir de faire ça dans cette enceinte-là, parce que tu sais que ça résonne jamais comme ça, les interventions. Donc voilà, t'as ce plaisir-là, et puis ça peut faire écho quand même, on pense que c'est pas complètement inutile. Mais t'as aucun pouvoir, tu les énerves un petit peu, et puis voilà, et ça passe un peu, quoi.
Mais c'est toujours un peu rigolo de les agacer. Le chat, est-ce que parce que c'est Philippe Poutou, il parle beaucoup, on dirait Monique Pinson-Charlot. C'est un compliment. Alors Barbara Stiegler, peut-être elle sera bientôt invitée dans une autre émission. Je peux pas vous en dire plus parce que c'est secret et peut-être je vous en ai déjà trop dit. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, j'en avais une. Mais
le communalisme, on l'a toujours pas répondu. Hein.
Mais ça va être le, tu vois, ça va être le. À la fin, il y aura une réponse sur le communalisme. Peut-être, si vous êtes gentil. À quand le retour des clips Philippe Poutou contre Monsieur Capital?
Aïe, aïe, aïe.
Alors ça, bon, pour ceux qui n'ont pas la ref, je vous encourage à aller voir sur Internet.
Toi, c'est pas grâce à toi que ça continue à se savoir. Ça.
Ouais, j'en avais fait la promo à Mediapart.
À Black Blog,
Mediapart, on l'avait rediffusé. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, attends, c'est intéressant quand même. On va en faire de cette remarque une question intéressante sur la personnification, parce que dans la mythologie de la 5e République, donc il y a l'homme providentiel, donc il y a tout un panel de trucs à faire, une affiche, un clip de campagne, donc c'était pour troller les clips de campagne que tu avais fait, des petites scénettes où tu défonçais la gueule à Monsieur Capital. C'était un mec raciste, je crois, dans la rue.
Ouais. Après, c'était en fait, comme on n'est pas très à l'aise toujours dans une élection présidentielle.
Avec la règle du jeu.
Parce qu'en fait, le débat qu'on a, c'est on pense quand même que ça vaut le coup d'y aller parce qu'on fait entendre autre chose et on montre aussi qu'on peut faire de la politique différemment. Enfin, on pense que c'est utile. Voilà.
Ouais.
Mais ceci dit, on n'est pas complètement à l'aise dans cet exercice-là parce que on n'est pas en complet désaccord avec les camarades libertaires, par exemple, qui eux disent en règle générale. Participer à des élections, c'est jouer le jeu de la duperie des règles électorales, c'est faire comme si c'est cautionner, machin, c'est pas complètement faux, mais c'est pas complètement vrai. Bon, mais ceci dit, il y a quelque part quelque chose qui est problématique, c'est vrai. Comment on fait,
t'es obligé de jouer avec les règles du jeu quand même.
Voilà, donc nous on pense qu'il vaut mieux y aller que pas y aller. Mais voilà, et donc du coup après il y a toute la campagne à mener, et la campagne à mener, quand t'es candidat à l'élection présidentielle, t'es comme un con là avec une affiche avec ta gueule et puis tout tourne autour de ton nom. en fait. Et c'est vrai que c'est pas si simple que ça à gérer, quoi. Bon, après, nous, on arrive à un petit peu quand même à le gérer, parce qu'à chaque fois, on le dit, ben non, mais moi, enfin, en fait, nous, quand
tu fais la campagne, on s'excuse un peu.
Des fois, il y a des camarades qui me disaient, non, mais t'es con, dis pas ça, répète pas ça, parce que je disais, non, mais je veux pas être président. Et il y en a, il y a des camarades, ils disent, le dis pas.
Ouais. Ah oui, il y a des débats,
évidemment. On le sait, donc, après, c'est comment t'es à l'aise là-dedans, quoi. Parce que même, je me rappelle des émissions à TF1. Il y a tes mises en scène, t'avais l'image de l'Élysée, tu vois, et puis tu t'asseyais.
Ouais, je me souviens. Ouais,
et ils te disent, voilà, si vous êtes président, si vous êtes élu, vous faites quoi? Et là, t'as pas envie de dire, t'as pas envie de rentrer dans leur jeu. Parce que ça fait mal, quoi. Même de dire, oui, si je suis président, je m'auto-dissous. Déjà de leur dire, non, on sera pas, puis on court pas après ça. Mais comment tu le formules de manière à ce que, quelque part, les gens, ils te voient quand même un peu, pas comme un fou, mais comme quelque chose qui est un peu utile, quoi. Donc c'est pas simple. Alors oui, après, il y a les clips. Les clips, et on essayait de faire les clips un peu collectivement et tout ça. Alors j'apparaissais forcément dans les clips parce que.
Avec un vrai talent d'acteur, on peut
Dire. Ouais, très très fort, ouais, c'est sûr. Enfin, j'en ai toujours.
C'est pas pire que Gilles Lelouch.
Tu sais que Lelouch, c'est pas un militant de gauche. Hein.
Non, bah, on a vu, sa réponse sur Jean Moulin. Oui, il avait l'air d'être un petit peu emmerdé. Le chat, est-ce que ça va toujours? Et vous êtes nombreux, hein, 1300. C'est incroyable. Est-ce que vous allez bien, le chat? Est-ce que vous n'avez pas trop chaud?
Oui.
On s'en doute. État ou pas État? Alors là, vraiment, on va dans le cœur de la meule. Tu dis NPA, parti révolutionnaire. Quid de la question de l'État?
Après, on revient dans le grand débat entre marxisme et libertaire.
Ouais, je sais pas s'il fait pas trop chaud pour ce débat.
C'est
une question du chat.
C'est lié aussi à la discussion sur la Constitution. À quoi bon discuter d'une Constitution si on ne discute pas de l'État? De quel type d'État? Et est-ce qu'on a besoin d'un État? Et donc, c'est le problème de fond de la démocratie. Ouais. C'est qui a le pouvoir? Et comment la société s'organise en fonction du pouvoir tel qu'il est, quoi.
Alors, s'il n'y a pas d'État,
donc nous, on est marxistes, enfin, la plupart d'entre nous, on est marxistes, donc on considère, c'est toujours cette idée, cette critique de l'État comme machine ou comme outil de domination de la classe qui a le pouvoir, la classe riche, hein, les capitalistes, et que donc, nous, on pense qu'il faut détruire cet État-là. Parce qu'on peut pas, l'améliorer, en fait, que ce soit la police, l'armée, la justice et tout ça, c'est des choses qui sont bien maîtrisées par l'État. Donc on est pour la destruction de l'État.
Mais
on est d'accord avec les anarchistes et les libertaires.
Ouais, okay.
La différence, c'est est-ce que dans la transition entre une société aujourd'hui capitaliste et la société, comment on gère cette transition-là? Donc comme on est tous des grands malins quand on est militant, on sait quoi penser, on sait comment ça va se passer la transition.
La dictature
du prolétariat.
Il y a le mot dictature dedans.
De toute façon, c'est pas possible de passer d'un État tel qu'il est aujourd'hui, d'une société telle qu'elle est aujourd'hui, divisée en classe sociale avec un pouvoir absolu de la classe qui dirige, et de passer comme ça directement à une société socialiste où il n'y a plus de... en communiste, sans classe sociale, sans oppression, autogérée dans les quartiers, dans les entreprises, dans les régions et tout ça. Et donc, du coup, il y a toujours cette idée qu'il y a un intermédiaire, mais l'intermédiaire, c'est un État ouvrier. Aujourd'hui, l'État ouvrier, ça fait un peu dépasser dans le sens où la classe ouvrière, c'est plus aussi celle de l'époque de Marx.
Mais ça voudrait dire un État quand même, déjà.
Mais en fait, c'est l'idée de la dictature du prolétariat. Parce que la dictature du prolétariat, ça ne veut pas dire un pouvoir absolu qui
comme il y a le mot dictature,
utilisé avant.
Je sais, mais c'est foutu, tu peux pas dire aux gens.
Ça veut dire qu'il faut trouver des formules.
Bah, démerdez-vous là.
C'est l'idée que, il faut forcément être très vigilant et tant que les moyens, on n'aura pas supprimé tous les moyens de nuire à la classe qui domine, il va bien falloir que nous on s'organise de telle manière à se protéger d'un retour d'une société capitaliste, d'un retour des et c'est pour ça qu'il y a un combat politique qui va durer, et puis ça dépend aussi si ça se passe dans un pays, est-ce que ça va se passer juste dans un pays et comment la révolution va s'étendre, est-ce que ça va être contagieux au point qu'il va y avoir un embrasement très large à travers les continents. évidemment que suivant le scénario des luttes révolutionnaires,
ça, c'est dans un deuxième
temps.
Et bien,
ouais, mais c'est comment ça va se passer. Donc, mais l'idée, de toute façon, on voit l'expérience des luttes passées. C'est si tu te bats pas, si tu t'organises pas pour te défendre, c'est pas de neutraliser la classe qui dominait, qui veut garder le pouvoir et qui, quand elle le perd, elle veut.
Ouais, hein, okay,
on a l'exemple de la Commune de Paris, qui est un exemple très local.
Ouais. Hein,
les bourgeois, ils se barrent à Versailles.
Oui, mais toute
la population s'autogère.
Ouais, mais hein, alors ça, ça m'intéresse.
Sans idéaliser, il y avait quand même, il y a eu 72 jours où il y avait comme une sorte de démocratie directe, la population.
Oui, mais avec quand même un cadre.
Représentant. Oui, il y avait un cadre.
Ouais. Ben, comme une sorte de constitution au niveau de la.
Ouais.
La commune.
Ouais, parce qu'ils avaient.
Et ben,
des,
c'est pour ça. En fait, c'est pour ça, moi, tout l'enjeu de ce projet sur Twitch et avec Eugénie, c'est d'écrire un texte, quoi.
Ouais.
Et d'installer un nouveau cadre. Parce que je te fais un peu de la provoque, mais quand je t'écoute, tu dis on vire la classe dominante, les bourgeois, tout ça, ok.
Ouais.
Ok, on est d'accord.
On n'est pas obligé de les pendre tous.
Pas obligé, on les déporte sur une île sympa. On les met tous en Corse. Non, mais voilà, on est d'accord, on leur retire le pouvoir. Mais si c'est pour mettre au pouvoir d'autres personnes, est-ce que le problème, c'est pas juste le pouvoir?
Mais le problème, c'est que...
Vous avez 4 heures. Le Twitch, n'hésitez pas à me dire ce que vous en
pensez. C'est un peu le cas de la Commune de Paris, mais il y a d'autres exemples en Amérique latine avec les apatistes et tout ça.
Mais à chaque fois, ils ont inventé un nouveau cadre.
Mais oui, mais à chaque fois, la vraie protection, en fait, c'est quand il y a une prise en charge de la vie politique très large par la population.
Et bien ça, est-ce qu'on peut pas en faire une constitution?
Donc, de ce point de vue-là, on est pour l'autogestion et on rejoint...
Ça se met dans la constitution.
Mais oui, ça, on est d'accord. Non, ce que je veux dire, ça veut pas dire qu'il faut pas écrire des trucs.
Oui, voilà.
Ça veut pas dire que ça sert à rien d'écrire parce que de toute façon, on fera pas.
Évidemment. Et voyons les effets que ça a sur le
réel. Mais ça veut dire quand même que t'es obligé d'écrire quelque chose sans zapper la question du pouvoir lui-même. Parce que là, tu vois ce que je veux dire.
Mais c'est même le cœur. Le cœur, c'est le pouvoir.
Là, par exemple, il y en a du côté de la France Insoumise, hein, du côté de Mélenchon. Ouais. Ils disent qu'il faut une 6e République. C'est repris par
d'autres. Moi, je pense qu'il faut une 12e.
Nous, on pense qu'il vaut mieux passer à la 7e ou la 8e directement, sauter la 6e.
Voilà.
Mais si tu discutes de 5, 6, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure.
Oui.
1, 2, 3, 4, 5, si on fait une 6e, mais si on fait une 6e sans discuter de la remise en cause du pouvoir capitaliste.
Qu'est-ce qu'on est en train de faire là?
Et du coup, de la question même du pouvoir dans l'économie.
Il y a 1400 personnes qui sont là, on est en train de faire ça.
Ça va peut-être pas suffire, mais ça monte.
Ah, pourquoi pas?
Mais tu vois,
c'est une constituante, tu peux faire une constituante avec 500 personnes.
Il faudrait qu'on inscrive dans la constitution l'idée d'une socialisation des moyens de production. Parce que comme on ne discute pas juste du pouvoir politique, on discute aussi de la question économique, des rapports sociaux, des rapports de production, qui possède et qui travaille. Et là, à partir du moment où tout ça, tu le mets en forme.
Ah, oui, pourquoi
donc,
pas.
Mais ça veut dire, c'est pour ça que la constitution, ça, c'est forcément, à notre avis, en tout cas, une remise en cause de l'ordre tel qu'il est aujourd'hui.
Mais on est bien d'accord. Moi, sinon, ça ne m'intéresserait pas de faire ça.
Ok.
Oui, si c'est pour faire de trop.
Donc, il y a un article de ligne où on peut dire on socialise tout, quoi.
Ouais. C'est vrai que c'est bon. Fin de la constitution. Tiens, je le mets à la main. Ça sera un document historique.
Socialisons tout.
Alors, attends, on va prendre des questions du chat. Ah, on a déjà chatté, il est déjà 40 minutes. C'est un bon panel. Ah, ouais, c'est un bon panel. 1421, c'est un bon panel. Ouais, mais ouais. On sait pas qui vous êtes. C'est ça qui est bien. Pourquoi la session NP? Alors c'est un peu technico-technique, peut-être on y reviendra. On se donne une date pour la prochaine manif. Ouais, alors vas-y, la question des manifs, j'ai noté. As-tu lu le site? Oui, j'ai lu, et je vais même vous dire, les gars de Goodway, qui sont incroyables, m'ont fait des rapports. Donc je suis vraiment comme un ministre. Ils m'ont fait des rapports détaillés avec des chiffres et tout. Donc ça, c'est un rapport sur ce que vous avez marqué, en gros, dans les propositions, les trucs qui reviennent le plus. Donc en partie 1, c'est réorganiser les pouvoirs et les institutions, on en parlait un peu. Donner au peuple le pouvoir de décider directement. Il y a pas mal de propositions sur l'environnement, l'écologie, et les biens communs, genre la santé, la justice, l'école, tout ça. Justice, c'est là, ouais. Donc alors j'ai pas lu tout en détail, mais sachez que tous les articles que vous proposez sont lus, notamment par Benjamin Poulain, qui fait partie de l'équipe de Goodway. Et ils bossent, et vous leur donnez beaucoup de boulot. À la base, ils avaient accepté parce qu'ils sont super. Et ils m'ont dit, mais nous, on veut bien t'aider là dans ton truc, ça a l'air sympa. Et peut-être qu'ils regrettent aujourd'hui.
Trop de travail.
Peut-être trop de boulot. Courage, Benjamin. Ouais, on l'embrasse. Et oui, il confirme, voilà, c'est Benjamin qui vous dit, je confirme, tout a été lu parce qu'il doit valider. Pour pas qu'il y ait dinguerie non plus. on déshabille Philippe Poutou et puis on lui balance des yaourts nature, ce genre de truc.
Parce que pardon, c'est moi qui l'avais écrit. Tu peux très bien avoir des idées qu'on ne partage pas du tout dans les propositions, c'est ça?
Ouais, ouais. Bah non, mais c'est pas. Alors je crois que Benjamin, il ne sélectionne pas par rapport aux idées qu'il a ou qu'on a, ouais. Mais si c'est des trucs qui font avancer le débat ou si c'est plutôt ouais. Des dingueries, quoi.
Hein, tout ce qui peut être réac, anti-immigré, par exemple.
Oui, ça, je pense que
ça passe pas, quoi.
Ouais, je vois ouais. Pas. Bah, encore que, ça, on peut discuter. Hein,
ouais,
mais,
ouais.
Qu'est-ce, bah, Benjamin, tiens, on va lui poser la question. Est-ce que tu as eu des propositions de fachos que tu as censurées? Ça serait vraiment un scandale. Regarde, tu vois, la censure. Un message a été supprimé par un modérateur. Ah, on peut l'afficher. Qu'est-ce qu'il disait? Ah, trop tard. Ils ont viré toutes les propales de Ruffin. Oui. Est-ce que Ruffin a essayé d'intervenir sur le site?
C'est vrai?
Non, je pense pas. On valide tout, même les fachos. On vire juste ce qui est insultant, contraire à la loi et hors sujet. Super. Ah ouais. Ah, et des fachos, il y en a eu? Genre des gens, justement. Ça, j'avoue, je les ai pas vus. Mais c'est, j'allais dire, c'est intéressant. Ruffin, un problème. Vous voulez qu'on parle de Ruffin? Oh, ça fait un peu politique politicienne, on s'en fout, non? En plus, j'ai pas lu la BD. Il n'y a pas de fachos, ils savent pas écrire, dit Benjamin. Voilà, fin du problème. Il est pas méchant, Ruffin. Là, ça part en super Ruffin. Ça part, il y a des ruffinistes et des anti-Ruffins. On s'en fout, c'est pas notre sujet du jour. Bah, vas-y, on va reprendre la question sur les manifs qu'il y avait tout à l'heure. Est-ce que c'est un mode d'action auquel tu crois encore ou
ah, oui.
Il y a un côté
oui.
Un peu désuet, folklorique?
Non, pas du tout désuet ni folklorique. Mmh. Par contre, on se rend bien compte qu'il y a des limites dans l'efficacité des manifestations. Mmh. Mais encore que, il y a énormément de manifs, hein, même aujourd'hui, il y en a quand même malgré tout, souvent très petites.
Mais est-ce que c'est efficace?
Mais à minima, moi, je pense que la manif, elle permet de montrer qu'il y a de la résistance, qu'il y a. Une envie de faire des choses, une envie de dénoncer, d'essayer de populariser un souci. Et donc, je pense que ça a cette utilité-là, quoi. Après, la difficulté qu'on a, encore une fois, c'est la question de l'émiettement du mouvement social. Les organisations, souvent les syndicats, ils ont leur couloir ou leur spécificité, justement la manif sociale et tout ça, c'est un peu leur domaine. Et puis les assos, elles ont un autre domaine et tout ça. Et puis les politiques, ils en auraient un autre.
Ouais, ouais.
Et du coup, ça, c'est quand même. Et en plus, en sachant que à la fois les syndicats sont divisés, les politiques à gauche sont ouais. divisés, et le milieu associatif est malheureusement très divisé lui aussi, très concurrentiel. Donc en fait, c'est ça qui pose problème, c'est que la manifestation, sa faiblesse, elle est la traduction aussi de la faiblesse du mouvement social. C'est-à-dire, en fait, on est trop divisé, on collabore trop peu, on regarde toujours l'autre un peu avec méfiance, et ce qui fait qu'on a moins de force.
Quoi, ça,
bah, ça, c'est aussi. Après, c'est difficile, j'en sais rien, moi.
Enfin, t'en poses des questions.
Ouais, mais c'est ça, mais non, mais t'es.
Non, mais.
T'as une situation où t'as.
C'est ça, pas toujours été le cas. Il y a des moments où.
Mais oui, il y a eu des moments où il y avait des gros
un peu
mouvements.
Des épiphanies comme ça où tout le monde s'est réuni.
Dans l'histoire, c'est quand même relativement rare, quoi.
Mais oui.
C'est pour ça que regarde. Donc, du coup, il n'y a pas à avoir trop de complexes aujourd'hui, parce que des fois, on peut se dire que c'est nous qui sommes très mauvais, ce qui est en partie vrai aussi. Les milieux militants qui savent pas faire.
Mais moi, je pensais pas ça. Je pense que c'est la structure, encore une fois, désolé de penser en termes de structure, mais te divise forcément. C'est une structure qui est faite pour des idées de domination, de leadership.
Oui, oui.
Donc c'est des valeurs de droite, de hiérarchie.
Tout est très bien fait pour casser,
mais
c'est vrai au niveau du monde social, mais comme au travail.
Oui.
Ce souci permanent de fractionner, d'isoler, et donc de fragiliser, et t'affaiblis comme ça, et tu enlèves les moyens de riposte aux classes populaires. Donc ça, c'est vrai. Et nous, on est piégés là-dedans. Et donc, beaucoup de sectarisme, beaucoup d'esprit boutiqué, mais tout ça, c'est cultivé souvent par l'idéologie dominante.
Mais oui.
Qui va essayer de... Bon, on le voit d'ailleurs avec depuis la question de la Palestine, la résistance, enfin la solidarité avec le peuple palestinien, où il y a d'autres sujets comme ça, où l'idéologie, enfin les médias dominants par exemple, et la classe dominante, elle va tout faire pour s'attaquer par exemple à une fraction de la gauche, notamment la FI, qui est la cible principale aujourd'hui des attaques, soi-disant ils sont terroristes, antisémites et tout ça, ils sont violents et machin.
Ouais.
Et donc tout ça c'est fait pour fractionner, pour fragiliser, et puis du coup il y en a plein qui disent voilà, c'est vrai, c'est un peu vrai, on va se marquer un petit peu. Et le problème ça va devenir ou la FI, ou... Raphaël Arnaud, le méchant Antifa, ou ça va être à un moment donné le NPA. Et donc du coup on se fait piéger là-dedans et on va se regarder plein de méfiance, on va se critiquer nous-mêmes et en fait sans se rendre compte qu'on fait un petit peu le jeu.
Donc, on est bien d'accord qu'il faut péter cette structure. Donc
que penses-tu
le chat? Est-ce que vous me dites, je suis peut-être pas assez sur le chat, mais j'ai envie quand même de poser une question à Philippe. Parce que ça fait donc c'est le troisième live qu'on fait sur cette chaîne et il y a un truc qui ressort souvent, c'est le tirage au sort et notamment l'idée d'un Sénat citoyen, c'est-à-dire d'un Sénat qui soit constitué.
Un Sénat, pourquoi un Sénat?
En fait on se disait, je vous résume un peu, parce que le truc symbolique c'est que le Sénat c'est vraiment les heures de la République. Moi j'y suis allé pour faire le micro-trottoir.
Tu sais quoi, globalement des organisations militantes normalement constituées sont pour l'abolition du Sénat.
Oui, mais là, c'est la
ça
symbolique.
Sert à rien, c'est vraiment...
Oui, mais là, un Sénat de citoyens tirés au sort.
Ouais.
Non, mais tu l'appelles comme tu veux. Là, je te dis Sénat parce que c'est symbolique de foutre des gens tirés au sort, de n'importe où, du peuple, dans des fauteuils. Parce que c'est vraiment, je te dis, les ordres de la
République. Il servirait à quoi?
La moquette avec
ça. Il aurait du
ça,
pouvoir,
à
ce créer Sénat.
C'est lui qui fabriquerait les lois. L'idée, je te dis l'idée, je crash test auprès de...
D'accord. Et t'as plus de parlement?
Tu te calmes, je
t'explique. Ah, c'est pour comprendre.
Oui, mais si tu me laisses pas parler. Putain, je comprends le calvaire de Nathalie Sacri qui attend. Non, ne clipez pas ça, ne gardez pas ça.
C'est pas parce que j'ai pas
donc,
de cravate,
je t'explique. Je vous fous un procès, moi. Donc, Sénat citoyen, j'en tire au sort, je te l'ai dit. Et on garde une Assemblée nationale.
Qui valide les travaux du Sénat.
Non, on inverse tout. C'est le Sénat qui a le dernier mot. Là, aujourd'hui, c'est l'Assemblée qui a le dernier mot. Sénat citoyen. Et on garde la démocratie représentative pour l'Assemblée. On fait une proportionnelle intégrale.
Mmh.
Pourquoi l'idée j'essaie de résumer tout ce qu'on s'est dit en quelques heures de chat et de live. L'idée, c'était quand même qu'on garde du débat public dans la société. Parce que si tu fais que du tirage au sort, dans ce cas-là, j'ai l'impression qu'on pourrait se désintéresser en tant que citoyen et se dire, bon, de toute façon... ça sera des gens tirés au sort qui vont décider. Donc là, avec ce dispositif, ça me paraît tenir sur ses pattes. T'as compris le truc ou pas? Qu'est-ce que t'en penses? T'as l'air un peu sceptique.
Mais oui, alors...
Tu fais pas confiance au peuple.
Ça n'a rien à voir
avec... Bravo le révolutionnaire.
L'histoire du...
Super, quand c'est Philippe Poutou, je vais pas te laisser parler.
Le tirage au sort en soi, on mesure bien les avantages que ça peut avoir, mais aussi les inconvénients que ça a. Mais l'idée de construire une assemblée où ça réfléchit, où ça discute et ça formule et ça rédige donc des lois, c'est ça? Des lois et pas la Constitution pour le coup, là, des lois.
Là, on parle vraiment de pouvoir législatif.
Parce que la Constitution, tu as vu comme au Chili, il y a eu récemment ce qu'on appelait une assemblée constituante.
C'est-à-dire,
et là c'était parti. Pas forcément tirage au sort,
je le
mais c'était.
Il est parti sur un autre sujet.
Non, c'était
je vais
de faire le lien.
Bougez pas,
entre
je vais
les choses qui.
Là, il me dit qu'il voulait faire le lien, mais il ment.
si, c'est vrai. C'est quoi pour combien qu'on se comprenne bien, quoi.
Ah merde, faut pas que je regarde là, faut que je regarde là. Vous êtes là, les gens, vous êtes pas là.
Mais donc, pourquoi pas, mais c'est. Je veux dire, toute la. Essayer d'élaborer une démocratie la plus juste possible.
C'est ça qu'on essaie de faire.
Ok, mais si tu le déconnectes, il ne faudrait pas le déconnecter de la question économique, encore une fois. Parce que c'est tout ce résultat.
Pourquoi
juste.
Tu voudrais le déconnecter? Ce ne sera pas déconnecté.
Donc il faut faire un lien, parce que là tu vois, je veux dire, tu peux impliquer le plus de gens. Mais là, par exemple, l'idée que tu défends. Ça a été un peu fait quand il y a eu le truc pour l'écologie là de Macron. Là,
alors attention, ça c'est la
eu des assemblées. Ouais, voilà.
Ça c'était mon deuxième.
Mais
pour l'instant, je te parle pas de ça.
Ça ressemble à ça quand même.
Non, parce que l'idée c'était d'avoir.
Parce qu'il y avait du tirage au sort là-dedans.
Oui, mais l'idée c'était d'avoir en plus des conventions citoyennes. Et la dernière fois qu'on a fait un live ensemble, on a listé toutes les thématiques. D'ailleurs, je dois les avoir là. Bon, je suis pas très organisé, donc c'est dans mes papiers. On a listé toutes les thématiques des conventions citoyennes. Donc, à chaque fois, faire une convention citoyenne, et du convention citoyenne sur l'économie, enfin sur l'emploi, ça fait partie des propositions des gens. Et à chaque fois, d'avoir une vraie... Donc, la convention citoyenne pour le climat, pour le coup, elle a plutôt très bien marché. Sauf qu'après, elle n'a pas eu d'impact sur le réel, parce que Macron, il a dit, j'en ai rien à foutre.
Il n'y a rien à être retenu.
Mais si jamais, dans la Constitution, tu as obligation de prendre ça en compte,
okay.
Et que ça se traduise en texte législatif, voté par un Sénat, puis l'Assemblée qui fait, oui, mais quand même, et que le Sénat, ça revient et qui dit, ça sera comme ça. Est-ce que là, on n'est pas sur des bases un peu plus solides et intéressantes?
Si, d'accord, mais il manque quand même un truc.
Alors voilà, vas-y.
Pour que ce soit un truc un peu efficace,
C'est ça qu'on veut.
Ouais. J'imagine.
Ouais.
Ben, il faut, y a un élément qui manque dans la discussion. C'est comment tu peux arriver à mettre en place ce type de démocratie-là, qui va à l'encontre de l'organisation actuelle de la société. Ça ne sera pas toléré par des gens qui ont le pouvoir aujourd'hui.
Pourquoi pas ?
Comment tu forces les choses ?
Alors, là, attends, là, là t'es dans l'étape d'après.
Non, non.
T'es dans le...
Non,
non mais...
Non, c'est l'étape maintenant.
Tu peux Moi, pas... je propose de d'abord écrire un texte, que ça, on le foute à la poubelle, et voilà, parce qu'il n'y a pas grand-chose à sauver, mais
ouais, okay.
On sauvera ce que vous avez envie de sauver. L'IVG, ce genre de truc, voilà. Mais, et qu'on réécrive un texte. Après, la tête, déjà.
Ah oui,
dans
avant
le...
de mettre en place, alors tu écris avant de mettre
moi,
en place.
Moi, mon truc, c'est d'avoir, décembre, on a une nouvelle constitution, voilà, c'est la constitution française. Et après, on voit.
Est-ce que ta constitution, elle inclut le droit à l'émeute ou le droit à la révolte?
Ouais, mais.
Le pouvoir de la rue. Est-ce que ça, ça serait dans la constitution?
Ben, ça serait
c'est
même
un peu comme
mieux
à la Révolution française, il y avait même, je crois que la déclaration des droits de l'homme au départ. T'avais cette idée que,
mais même des mandats
que le peuple a le droit de se révolter s'il est opprimé. Tu sais, si,
oui, oui, mais je crois que c'est même marqué encore dans la...
C'est encore,
parce qu'il y a le préambule dedans. Ouais.
Ça, il faut le mettre en avant. Moi, je pense que ça fait partie des bases qui peuvent rendre crédibles des véritables démocraties. Tu vois,
en fait, ça n'élimine pas les rapports de force, moi, parce qu'on l'a élaboré ensemble. Il y a même des trucs où moi, j'arrive évidemment avec des a priori, des idées préconçues, voilà. Et en discutant, par exemple, l'idée du président, je vais dire, je résume juste en deux minutes. Moi, j'étais plutôt pour garder un...
Ah ouais,
ouais, mais dans un rôle, tu sais, genre, faut aller assister à la finale de la Coupe du Monde de
cricket.
Genre,
en Angleterre.
Voilà, un peu. Et en discutant avec Eugénie dans le premier live et puis avec les gens en direct dans le deuxième, je me suis dit, bon, finalement, non, on s'en fout.
Ouais.
Il y a des pays où ils envoient plusieurs personnes. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être pas mal. T'as rendez-vous avec Poutine, bah, t'arrives à 5. Ça change aussi le rapport de force.
Ouais.
T'as plus un gugus contre un gugus, bêtement, quoi.
Ouais. Bah, il faut,
donc tu vois, je
c'est collectivisé. Enfin, plus c'est collectif, plus c'est des équipes, plus c'est mieux c'est.
Ouais.
Enfin, a priori.
Bon.
Ouais.
On va.
Mais je vais pas évacuer la question du rapport de force.
Mais il y aura. Et y a forcément
la question d'une démocratie réelle. Enfin,
ouais.
Comment tu peux le marquer ça sur papier qu'en fait il faudrait ce qu'on appelait les Soviets au moment de la Révolution russe, même si ça n'a pas une image forcément. Très convivial, parce que la révolution russe, ça a été quelque chose de très dur de suite.
Non, mais si tu te dis tous les deux ans, mettons, j'en sais rien, là, je réfléchis à voix haute, si tu dis tous les deux ans ou tous les trois ans, il y a une convention citoyenne sur l'économie, sur l'emploi.
Tu penses que ça suffit, ça? Et entre les deux, il y a quoi? Entre les deux,
tu mets en place des contre-pouvoirs, des mandats révocatoires, des choses comme ça.
Une forme d'assemblée générale permanente, en fait.
Bah oui.
On va appeler des conseils,
citoyen,
des conseils de quartier, des conseils.
Enfin, pour l'instant, on en est là, on en est au début, tu vois, on est en mai, donc forcément, ça va évoluer. Je réfléchis à autre.
Pour que ça tienne la route, c'est obligé, enfin, à notre avis, une forme de démocratie directe permanente. Alors, c'est pas ça.
Eh ben, un RIC, par exemple.
Mais plus qu'un RIC, parce qu'un RIC, ça suppose que tu votes à un moment donné ou pas. Mais là, c'est pas l'histoire juste du vote, c'est l'histoire d'une pratique quotidienne de la démocratie, d'une implication de celles et ceux qui sont volontaires. Tout le monde n'est pas volontaire, forcément, à ce truc-là, mais parce que c'est du temps et tout ça. Mais donc derrière, c'est parce que souvent on se dit, les gens, ils ont pas envie de se prendre la tête après le boulot, même après une journée où tu galères, parce que c'est pas forcément le boulot qui use. Quand tu es au chômage, quand tu galères, t'as pas la forme forcément ou la dispo pour aller discuter politique, pour aller voir tes voisins ou pour aller voir comment on peut résister. Donc il y a aussi la question de l'organisation du travail.
Mmh.
Et c'est-à-dire comment tu mets en place une vie sociale qui te libère le temps qu'il faut pour pouvoir faire ça.
Ben ça, c'est une convention, la convention citoyenne sur le travail.
Donc ça veut dire que tu pars sur... on bosse deux jours par semaine.
Admettons.
Hein,
mais encore une fois, tu vois, c'est pas toi qui vas décider, c'est la convention citoyenne sur l'emploi.
Ouais. Mais bon, ça va, d'accord, ça fait partie des pistes de travail.
Je vois bien que je suis obligé de te rassurer. Oui. Mais c'est, en fait, l'idée, c'est d'avoir une structure qui permette ça, qui permette de faire vivre les rapports de force. De manière institutionnelle, quoi. C'est un bien un grand mot pour dire, voilà, les règles du jeu de la société, quoi. Pour dire ça de manière plus basique. Alors, pardon, on vous a pas oublié le chat.
Mais
un petit peu, j'avoue, on vous a un petit peu oublié.
Ça rejoint un peu le communalisme.
Le communalisme, on devait en parler.
La démocratie directe, après, c'est repris par, je crois que c'est l'AFI qui a sorti un livre, enfin, l'école de la Boétie, la formation qui a sorti un livre sur le communalisme.
Qu'est-ce que c'est le communalisme?
Parce
que
je pense en réalité, c'est une idée.
Vous êtes de plus en plus. On va finir à 10 000 pour le
moment. C'est les milieux libertaires qui l'ont le plus formulé. C'est tout simplement l'idée d'une démocratie directe locale. C'est ce qu'on pourrait appeler quelque part le fédéralisme. Et dans une commune, c'est l'échelle l'échelle d'organisation de la population qui paraît la plus facile à mettre en place. Et donc, ça relève de cette idée de la démocratie directe, comment la population est impliquée, comment elle décide dans son propre quartier, tout ça. Okay. Et donc, ouais,
c'est une idée. Ça peut se mettre dans une constitution aussi.
Oui, ça peut se mettre.
C'est déjà,
il faut les prendre conscience que ça ne vient pas tranquillement tout seul en convainquant tout le monde, quoi, tu vois.
Ah, si, tu vois. Ah, une fois que le texte, il va s'imposer lui-même.
Ok.
Bah, il va s'imposer de lui-même, il aurait été écrit par nous.
Ok.
Ben oui.
C'est aussi, en fait, on fait une révolution tranquille, quoi.
Ah, mais là, on est en pleine révolution. Regarde, voilà, la glace à la mangue a fondu, donc ce ne sera pas la révolution de la glace à la mangue, on va trouver un autre titre. Mais oui, c'est ça, c'est ni plus ni moins que ça. Qui est ce nous ? Eh bien, nous, vous, qui êtes là, 1600 personnes, les gens qui ont contribué au site Internet. Et puis là, c'est un processus un peu de discussion. Moi, j'aime bien, je suis assez curieux de nature, j'aime bien tenter des trucs. Et là, je me suis dit, tiens, je vois que ce qui déconne, c'est le texte de base, quoi, l'espèce de loi des lois, comme on dit. Voyons si on peut le changer, et puis voyons si ça vous intéresse. Quand je vois que vous êtes 1600 à nous écouter, je me dis, enfin, tu vois, il y a quand même déjà, il fait beau dehors, il n'y a pas d'autre chose à faire que d'écouter deux gugus qui parlent tout seul.
Parce qu'on s'emmerde.
Ben voilà.
Parce qu'on est seul.
Donc je me dis, ça me réjouit qu'il y ait autant de monde. Donc voilà. Écho, quoi, écho? Il y a un écho. On a fait de l'écho. C'est pas très écolo, la mangue. Oh, très exactement. Je pense que c'est un goût mangue. Hein. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'atomes de mangue.
Mais c'est encore pire que ça. C'est de la mangue de Rennes.
C'est de la mangue de Rennes, on est en Bretagne là.
Ça pousse à...
Et voilà, avec le réchauffement climatique, on en a dans le jardin. Il y a un super écho, il y a un écho bizarre. Ah bon, c'est nouveau ça? On n'a rien touché. On n'a rien touché. Faut faire du cheval avant de manger la mangue, c'est oui. Son de gauche, ben merde, depuis le début on a un son dégueulasse. Attends, je vais demander aux équipes de Goodway. Ah non, sinon ils m'auraient
alerté.
Alerté
quand même. Hein.
Ouais. Ça se trouve... c'est le 2 juin avec Eugénie qu'on fait un live sur Twitch. Bah, c'est bientôt d'ailleurs, c'est la semaine prochaine. C'est mieux. Juste là, ça fait partie du lore. Je ne sais pas si c'est une expression. Attendez, Benjamin Poulain, qui est à Goodway, va me dire... Non, le son était top, il y a quelques légers échos depuis quelques minutes. Bon, on n'a rien touché.
Non.
Ah, c'est peut-être parce qu'on est sur écoute.
Ça peut être ceci.
Ça serait complètement con d'être sur écoute vu qu'on est en live sur Twitch. Ouais. Mais arrêtez de nous mettre sur écoute. Abonnez-vous sur Twitch. Bref, c'est inaudible cet écho. Bah merde, c'est le deuxième micro, m'ont dit. Attends.
Ah, il y a peut-être un micro qu'il faut éteindre. Ah,
si je fais ça, c'est mieux ou pas? Parce que ça se trouve, le deuxième micro s'est mis à marcher.
Il s'est réveillé.
Il s'est mis à marcher tout seul.
C'est mieux?
C'est pire, on me dit. Il y a quelqu'un sur l'autre téléphone de la maison. Non, ah oui, c'est comme quand on était gamin et qu'il y avait quelqu'un qui téléphonait pendant qu'on était sur Internet. C'est pire. Pas d'écho, moi c'est bon. Je vois pas la diff. Ah merde. Pareil quoi. Il faut le débrancher le deuxième. Ok, je fais tout ce que vous me dites. Là, le deuxième. Attendez, je vais le casser. Il est débranché. Parce qu'en fait, il y a des gens qui nous disent qu'il n'y a pas d'écho. Le son est bon. Et il y a des gens qui nous disent écho léger. Et il y a des gens qui disent couper le haut-parleur éventuellement. Non, mais on n'a pas de haut-parleur. Regardez, ça c'est un écho. Là, c'est insupportable. Ça, c'est chiant. Là, c'était chiant. Voilà. Quand t'es trop loin du micro, on entend la pièce. Attends, on va se rapprocher alors. Mais ça fait très Général de Gaulle. La 5e République. Toujours de l'écho, et ou alors nickel, tu fais le DJ. Oui, bon, bref. Ah, c'est mieux. Bon, on va parler un peu plus près du micro. Faut se rapprocher du micro, c'est la réverbération de la pièce. Ah, attends, si je ferme la porte. Je te les laisse, Philippe. Salut.
À plus. Pas la fenêtre, par contre. Hein.
Non, pas la fenêtre, sinon on va crever. Est-ce que là, ça change quelque chose ou non, j'ai juste fermé la porte de la pièce. Ouais, qu'on s'approche. Bon, allez, ça c'est d'accord. Alors, on va s'approcher. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de dire? On est à une heure de live et vous êtes 1600. Écho, ça va vous, Philippe? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va toujours?
Ça va bien.
Ça va bien? Non, mais c'est, tu vois, c'est intéressant. Hein. Oula, non, c'est pareil. Bah là, je peux rien faire de plus, les amis. Ou alors, je passe.
Ah merde.
Attends, si je fais ça. Là, je suis sur le. Attends, je peux peut-être. Attends, si je fais ça, vous m'entendez plus du tout, j'imagine. Blablabla. Bla, bla, bla. C'est du son de gauche, ouais. Si, ah, vous m'entendez si je fais ça? Mais alors ça veut dire que ça passe même pas par la petite mixette. Je ne comprends absolument rien. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des gens dont c'est le métier. Pourtant là ça module, on voit que ça module. Bon, ça nous fait une petite pause en même temps. Permet à Philippe de manger sa mangue.
Liquide.
Liquide. Parfait, c'est parfait comme ça. C'est parfait comme ça. Je bouge plus ? Non, c'est un micro. C'est le micro. Non, c'est pas le micro de l'ordi. C'est moins agressif. Bon, bah écoute, j'ai tout mis. Il y a des gens qui commencent à s'énerver en disant vous nous faites chier avec le son. Laissez-les parler. Putain, on a créé des scissions. Et si je fais ça, je t'entends encore des trucs. Hein. Si je fais ça, c'est... il n'y a plus d'écho a priori. C'est parfait. Le son est faible. Plus de volume. Attends, je peux peut-être le gérer là. Plus de volume. Ben non, il est au max le volume entrant. Plus de volume. Montez le son chez vous. Voilà, montez le son chez vous. C'est pour laisser le temps à Philippe de manger sa glace. C'est nickel. C'est pas assez fort, mais c'est mieux. Vous voulez qu'on fasse de la ASMR ?
Là, tu peux pas monter, là ?
Bah, ça, a priori, donc là, il est branché sur le 2. Si je fais ça, là, ça remet de l'écho ou pas ? Blablabla. Dites-moi s'il y a de l'écho. Oui, de la ASMR. Non, ça remet pas d'écho ? Et est-ce que ça monte le son chez vous ? Est-ce que c'est mieux comme ça chez vous ? Oui. Écho, l'enfer. Ah si, ça remet de l'écho. Ça en remet, d'accord. On a déjà vu où était le problème. Re-écho. Ok, donc je laisse comme ça. Regarde, le chat, si c'est pas assez fort, monte le son chez toi. Ne vous engueulez pas. Est-ce que vous avez des questions ? Parce que là, on discute, mais on vous a pas laissé beaucoup de temps de poser des questions. Regarde, ta webcam a un micro, on me dit. Mais ouais, mais là, ça passe par le micro qui est là. Voilà, franchement, c'est pas grave. D'accord. Ok. Oui, l'équipe de la solo. Ben, alors, l'équipe Good Way, c'est les gens qui gèrent nos vidéos dans l'émission la dernière sur Radio Nova. Très bonne émission, auquel a assisté Philippe Poutou hier. Mmh. Dans le public, il était très sage, il a tout et tout écouté. Que devient Olivier ? Comment sont élus les représentants du peuple ? Ben là, du coup, on a essayé d'apporter ce modus operandi avec du tirage au sort, etc. Est-ce qu'il y a plus des questions générales ? Je voudrais qu'on planche sur une architecture, c'est exactement ce qu'on essaye de faire. Ah, est-ce qu'il y a un gouvernement ? C'est une bonne question, ça. Est-ce qu'on garde quand même un gouvernement ? Ou est-ce que finalement il n'y en a plus besoin ? Ah, il ne s'y attendait pas, il n'a pas révisé.
Non, mais moi j'ai révisé, c'est quand on rentre dans les détails comme ça, c'est pas simple. Quoi. Il faut imaginer.
Ah ouais, mais là, on a le droit de ne pas avoir d'avis. Hein. T'as le droit de dire, bah, je sais pas, j'ai pas
réfléchi. Après, il faut voir comment. Parce que si on défend l'idée d'une démocratie locale, avec les possibilités pour la population de décider à une échelle d'une commune ou d'une aglo ou d'une région. Comment ça se gère aussi avec un pouvoir central ? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il faut un pouvoir un peu central sur des zones géographiques plus larges ? Parce qu'il y a
des décisions
à prendre qui relèveront d'une échelle plus large. Quoi. Ouais. Après, comment tout ça se coordonne ? Alors après, est-ce qu'il faut un gouvernement ? Sans gouvernement, on a une mauvaise image de ce que c'est aujourd'hui. Quoi. Mais si tu structures une société par le bas, tu peux imaginer des étages comme ça, où chacun des étages respecte l'étage en dessous, où il y a une véritable représentation. Et puis surtout, on met dans l'idée que tout est révocable, en fait, tu vois, parce que c'est ça qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. C'est qu'un pouvoir élu, tu ne peux pas le changer. Quoi. Tu te le coltines, même un taré comme Trump, tu l'as pendant 4 ans. Quoi.
Oui, bah oui, mais parce que la Constitution lui permet de rester.
Oui, donc
ou alors c'est un coup d'État, mais il faut.
Alors après, ça, c'est toujours plus facile à dire qu'à mettre en œuvre, parce que révoquer les élus, ça supposerait... à partir de combien en pourcentage de la population
ça
veut dire on imagine donc une situation où il y aurait des votes un peu en permanence donc à la fois ça peut être un peu oula ça va être le bazar mais en même temps c'est peut-être ça la richesse aussi d'une vie démocratique c'est
qu'en fait les Suisses ils votent beaucoup
bon après ça résout
c'est pas
grand chose
non, c'est pas idéal
la Suisse c'est pas pour ça que c'est une démocratie t'as des votes très régulièrement
Mais c'est faisable, je veux dire, techniquement.
Surtout les moyens techniques actuels, peux très bien solliciter des avis.
Là, on a l'impression que c'est un vieux système. Bah, de toute façon, 1958, quoi. Ouais. La société a vraiment bougé énormément et on est encore sur des vieux outils, quoi.
C'est imaginer des structurations, mais c'est obligé qu'il y ait des étages. Enfin, on imagine que c'est quand même un truc un peu incontournable. Ouais. Moi, je voulais t'interroger
aussi sur...
Quand
tu veux faire un truc un peu rationnel, quand tu veux... Mais même ne serait-ce que la solidarité entre les hommes du monde, par exemple, un peuple qui a des difficultés d'alimentation en eau, tu vois, comment un autre coin du monde peut aider à apporter des solutions techniques ou apporter une aide humanitaire, enfin... Et donc ça suppose quand même des discussions à un certain niveau. Et
ça,
donc,
il y aura une convention citoyenne sur le droit international.
Voilà, ok.
Bah oui.
C'est simple en fait.
Moi, en vrai, je pense que c'est assez simple. Et que la douille, c'est qu'on n'a pas vu que c'était simple. Tu sais quoi ? On se dit, la Constitution, c'est un texte très technique, ça fait peur.
Qu'est-ce que tu
en
fais
vrai, c'est pas compliqué.
Du pouvoir actuel qui ne voudra pas ce genre de truc.
Là, comment, t'es dans l'étape d'après.
C'est l'étape d'après.
On verra. Oui, là, c'est juste je te réinviterai en janvier-février. Déjà, faisons un texte. Parce que là, sinon, on arrive, on gueule dessus et on n'a rien à proposer. Là, on dira, bah nous, on voudrait ça.
C'est juste ça. Voilà. On fait un plan d'une société démocratique de demain.
C'est ça qu'on veut, nous. On veut ça. Maintenant, si vous voulez pas ça, bon bah peut-être on peut se fâcher, peut-être qu'on on verra. J'ai quelques idées, on peut faire des trucs. Non mais ça rejoint un peu la question que je voulais te poser tout à l'heure sur t'as parlé de peuple. Tu sais, t'as dit il faudrait que dans la Constitution il y ait le respect quand le peuple est.
Le droit à la révolte.
Le droit à la révolte. Mais en fait, je voulais t'interroger sur la notion de peuple. Qu'est-ce que c'est pour toi le peuple? Parce que est-ce que Bernard Arnault il fait partie du peuple? Est-ce que, tu vois, si le peuple, comme en Grande-Bretagne, il manifeste pour virer les étrangers, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de mythification du peuple dans la gauche
révolutionnaire? Mais derrière, il y a des discussions, parce qu'en fait, c'est comme beaucoup de mots, quel contenu on y met.
Ben voilà.
Et on s'aperçoit, nous, que quand il n'y a pas un contenu de classe, par exemple, qui montre justement la délimitation entre une population qui est victime, qui est ou exploitée ou opprimée, on est bien obligé de distinguer de cette catégorie-là de la population, donc du peuple, d'une autre partie qui, elle, opprime ou est en position de pouvoir et de dominer.
Donc, pour toi, le peuple,
ça fait partie des mots, normalement, dans le courant révolutionnaire, le courant internationaliste, c'est des mots qu'on n'utilise pas toujours, enfin, pas facilement.
Parce que justement,
on considère que ça cache une autre réalité, la réalité, justement, d'une société divisée en classes sociales. Et le peuple, c'est souvent d'ailleurs l'extrême droite qui aime bien l'utiliser, le peuple français. Mais il n'y a pas que, parce qu'évidemment que dans les mouvements révolutionnaires, on discute aussi de peuple, ou même nous, on dit solidarité internationale entre les peuples. Donc, on l'envisage plus facilement comme ça quand on veut discuter de solidarité, par-delà les frontières, on discute même de liberté de circulation.
En fait, souvent, ce qu'on entend par peuple, c'est les gens qui subissent.
Et dans la même collection, d'ailleurs,
Anna Moza,
il y a le mot peuple qui existe, et justement, c'est une volonté de mettre un contenu politique de gauche, militant, et de faire en sorte que ce mot-là, il ne soit pas juste. Utilisé par l'extrême droite, mais qui peut aussi être utilisé par tout le monde, en fait, par nous. Mais ça mérite, t'as toujours besoin d'y mettre un petit contenu.
Moi je trouve ça passionnant. Alors, le chat, est-ce que vous avez des choses à nous dire? Oui, j'imagine que oui. Pardon, on parle beaucoup. Qui devient le chef des armées? Qui possède les codes nucléaires? Putain, c'est une bonne question ça. Code nucléaire.
On peut imaginer que on se débarrasse du nucléaire quand même, non? On peut imaginer
que ça sera la convention citoyenne.
Alors on sait que du jour au lendemain c'est un peu compliqué, mais les assos très impliqués dans la lutte contre le nucléaire expliquent qu'il peut y avoir un plan de sortie du nucléaire en relativement peu d'années.
Mais alors est-ce que ça serait pas au niveau
international? Donc il n'y a plus question du bouton. On peut se dire que le bouton on le pète et on sort du nucléaire progressivement.
Mais alors
on résout pas tout, mais déjà on peut dire qu'on le résoudrait comme ça.
Alors contre-argument, c'est qu'on va nous dire c'est ce qui permet notre survie quoi. Non. Si ça se trouve
le nucléaire.
Ouais.
Ah tu veux dire dans le cadre de guerre.
Ça sort souvent au cadre.
Parce que si on a
ça sert assez rarement dans le cadre d'un pique-nique par exemple.
Bah, les guerres civiles, ça existe.
Non mais là je pensais parler du nucléaire.
Quand t'allumes la lumière, c'est...
Non mais là il a dit les codes nucléaires.
Le bouton ça veut dire la
chef des armées.
Tu lances les missiles. Donc c'est
conçu. Ah oui, toi t'étais sur le nucléaire.
Global, de se débarrasser du nucléaire.
Attends, intéressant. Là tu dis il faut se débarrasser du nucléaire. Mais d'accord Philippe Poutou.
Tout le monde n'est pas d'accord avec ça.
Mais il y aurait une convention citoyenne sur l'énergie.
Ouais.
Voilà. Ah, bien calmé. Bien calmé là. Il a des petites velléités de.
En fait, c'est chiant la démocratie.
Dictature du prolétariat, il remplace le prolétariat par Philippe Poutou.
Trop de démocratie peut.
Ça y est, on le tient. On le tient.
C'est...
Non, mais après, qui est chef des armées?
Et l'armement, ouais, chef des armées, c'est toujours difficile de discuter de situations qu'on ne vit pas aujourd'hui.
Mais je crois que, alors c'est pas la solution miracle à tout, mais si tu fais une convention citoyenne sur la défense, avec des gens compétents, et donc avec des militaires, des grands généraux, des machins, là, qui vont défendre leur point de vue, qui vont exposer des arguments, il y en a des pas débiles, quoi. Des arguments et des militaires.
Ah, après c'est pareil quoi. L'armée, enfin, on connaît l'armée telle qu'elle est aujourd'hui,
ouais.
Hein, comme la police, la justice, enfin, tout ce qui est oui. bras armé de ouais. l'État.
Le régalien.
Donc ouais, on ouais. sait comment ça marche aujourd'hui, mais ça suppose qu'on discute pas d'une armée structurée de la même manière et qui a les mêmes objectifs. Parce que là aujourd'hui, on a des armées qui sont au service des nations et donc et les nations, c'est pas au service des peuples, hein, c'est au service des intérêts économiques.
Mais on peut imaginer une autre armée.
C'est ce que disait Anatole France ou Jean Jaurès. Hein, on croit mourir pour la patrie, on meurt pour les marchands de canons. Hein. Donc du coup, ça veut dire aussi en même temps restructurer la question de l'armée.
Mais on va, la mais police, mais on va le
et
faire.
Donc, c'est dans la Constitution, forcément.
Et bah,
comment faire en sorte
je suis bien heureux de vous l'entendre dire.
A-t-on besoin d'une police demain? A-t-on besoin d'une armée demain?
Ou en tout cas, à quoi ça sert, quoi?
Ouais. Et pourquoi? Si on en a besoin, et pourquoi? Et si on en a besoin aussi, de quelle manière? Et il y a des réflexions.
Et pour se défendre contre qui, quoi?
Sur la police, c'était au moment du meurtre de George Floyd, c'est en 2020. Il y a eu tout un mouvement, Black Lives Matter, tout un mouvement, et dedans il y avait toute une réflexion sur l'abolition de la police, comment, même y compris de discuter de comment les quartiers pourraient s'auto-organiser pour se protéger, et donc la police, c'était plus un corps à part, mais ça pouvait devenir quelque chose que la population elle-même organise et construit.
Mais ça, t'imagines si dans une commune il y a cette possibilité démocratique-là, s'il y a une institution consacrée à ça? Un lieu où des gens ils se réunissent et puis un mode opératoire.
Ouais.
Bah, franchement, ça change tout. Hein.
Ouais, d'accord, tu peux discuter de ça, mais après, c'est comment tu le mets véritablement en place.
Bah, si t'as, après, il faut l'étape d'après qui est comment tu légifères à partir de ça. Et quel impact ça a sur le réel, sinon c'est les gens qui discutent dans un bar.
Alors après,
ce qui est bien aussi, mais...
L'armée, c'est encore un truc peut-être un peu plus compliqué que la police. La police, on va dire, c'est interne à une zone délimitée. Un pays comme la France, par exemple, la police, ou aux États-Unis. Mais après, l'armée, c'est sûr que ça pose la question.
Après,
ça pose la question que si tu as une révolution démocratique dans un pays comme la France, c'est pas dit qu'en Russie, il y a la même chose qui se passe. Donc, on l'a vu dans l'autre sens. C'est-à-dire, quand il y a eu la révolution en Russie, toutes les armées.
Il y aura bagarre, peut-être.
Attends, les armées françaises, anglaises, allemandes ont attaqué la Russie.
Oui, oui.
Et il y a eu un front, c'était la guerre civile. Mm. Toutes les armées. On peut voir aussi l'histoire de Cuba. Cuba, révolution cubaine, l'armée américaine. Tentative de reprendre le pouvoir, donc on imagine bien effectivement la difficulté, donc la question militaire elle va se poser forcément.
Mais après, quand on aura un super, je reprends celui-là à chaque fois, mais quand on aura une super constitution, les autres peuples du monde, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire putain, pas mal la France là, et puis ils vont l'améliorer avec leurs particularités, et ils vont dire à leurs dirigeants, attends, la France, c'est pas mal ce qu'ils ont fait là. Avec leur truc, d'où on voudrait ça, qu'on a remodelé, machin, tout ça.
Ça, t'as une vision vachement.
Ça va marcher.
Ouais.
L'échec n'est absolument pas envisageable.
Tout est.
Ça va marcher ou pas, le chat? Dites-moi si je suis complètement délivré. Non, répondez pas à cette question. Peut-être j'ai la réponse. Mais je vois pas. Non, mais en tout cas, ça se tente. Ça se tente parce que là, j'ai l'impression. J'ai que 45 ans, mais que j'entends un peu qu'on est enferré dans des débats qui sont un peu toujours les mêmes. Mmh. Et les rapports de force, on les connaît. On les perd parce que au bout d'un moment, même quand on les gagne au niveau démocratique, ils sont armés, donc ils crèvent des yeux, ils arrachent des mains, ou alors ils respectent pas le résultat des élections, comme on l'a vu avec le NFP. Donc au final, tu dis bon, je crois que tu joues au Monopoly contre un gars qui a la banque, qui distribue, enfin qui décide de tout, qui change les règles au fur et à mesure du jeu. Non, finalement là, t'es chez moi. Bon, donc au bout d'un moment, ça ne marche plus.
Ouais, bah, je pense qu'on est quelques-uns à le penser, c'est qu'en fait, c'est forcément lié à des mouvements sociaux ou des révoltes populaires.
Ouais.
C'est comme ça que ça avance. Alors, ça ne résout pas tous les problèmes, évidemment. On l'a vu avec la révolte des femmes en Iran. La puissance du mouvement, en même temps, donc ce que ça fait surgir comme perspective différente, de possibilités.
Ouais.
Ça ouvre plein de choses. Ils ont dû vivre des moments extraordinaires de discussion. Ça dure un moment et puis à un moment donné, le rapport de force, il se réinverse et tout ça. Mais on vit plein de choses comme ça. Le mouvement de révolte en Algérie il n'y a pas longtemps.
Ouais, ouais.
Le Chili en.
De toute façon, c'est l'histoire de l'humanité.
Et tu t'aperçois que, d'ailleurs, le Chili, tu avais l'exemple du Chili.
Ouais.
C'est la révolte au Chili en 2019 qui a mis à l'ordre du jour une nouvelle constitution et d'arriver à se débarrasser de la constitution de Pinochet qui est encore en place.
Bon, la suite est moins réjouissante,
mais en tout cas, c'est la force du mouvement qui relance la discussion et qui rend crédible la perspective.
Mais on aura besoin de mouvements. Peut-être, ça, donc, c'est, tu vois, t'es déjà dans l'étape d'après.
Non,
et ça
non,
me plaît,
non,
t'es un gars d'anticipation. On aura besoin de ça.
Ça veut dire que c'est bien de réfléchir à tout ça. Il y aura des merguez.
Vegan,
mais il y aura des merguez. Ce qui peut aider à ce que ça se concrétise, c'est forcément une poussée. Tu vois,
bien sûr,
en bas.
Mais j'ai jamais
vu une discussion comme ça, tu vois. C'est, en plus, ça va être. T'imagines, quand tu vas faire tes assemblées pour discuter.
Mais s'il y a 4 millions de personnes.
Tu vas avoir des macroniens, des gens du Modem qui vont venir, mais oui, vous avez raison. Tu sais, t'as toujours ces trucs-là. Remarque, dans une lutte aussi, t'as ça. Ça capte des opportunistes.
Mais ça, c'est tout le temps comme ça.
Faut apprendre aussi à se protéger.
Oui, mais ça, il y a toujours des gens plus ou moins radicaux, des gens plus ou moins réformés. Enfin, la structure globale d'un groupe humain, ça change pas. C'est toujours la même. Donc, ça, c'est pas grave. Mais moi je suis hyper d'accord avec toi, mais ça là tu anticipes déjà le deuxième temps et c'est cool. Ça veut dire que déjà le premier tu l'as accepté, on aura un texte extrêmement stylé. Et dans le deuxième temps, bah oui, s'il y a 5 millions de personnes qui manifestent en disant on voudrait ça parce que c'est nous qui avons décidé, peut-être ça y aura, je sais pas. Là c'est le troisième live, c'est trop tôt pour parler de ça. Faisons d'abord un texte stylé avant de dire.
C'est à peu près combien, 10-15 ans la première phase? À ton avis, d'élaboration
Regarde, on s'en reparle l'année prochaine. À mon avis, l'année prochaine, c'est plié.
Ok.
Regarde, on est 25 mai 2027.
Ouais. Ça va relativement vite, en fait.
Ouais. Ouais. On sera au même endroit. Ouais. Je te réinvite au même endroit dans un an. Et tu me diras, putain, ouais, non, je ne croyais pas trop à ton truc, mais quand même. Bon, bref. En plus, regarde, les gens sont de plus en plus nombreux. 1530.
Non, ça a baissé.
Ah, il y avait plus avant.
Il y avait 1600 et quelques.
Oui, il y avait 1600. Où sont partis les gens? Ils ont des vies, les gens, c'est pas possible. Alors, décembre max, il dit écrire des trucs. T'as bien raison. On transpire, oui, bien sûr. Là, c'est qu'on a chaud. Un peu d'élu, pauvre Guillaume. On te prend au mot et on bouge. Mais oui. Composition du gouvernement, assemblée, est-elle soumise à des conditions de parité, diversité sociale? Ça paraît indispensable.
Oui.
Dans la Convention citoyenne pour le climat, il y avait ça, hein. Parité, diversité sociale, il y avait des... Alors, pour l'anecdote, je crois que j'ai déjà raconté cette anecdote la dernière fois. C'était un tirage au sort et Cohn-Bendit a été tiré au sort. Il s'est désisté, il a dit « Braf, j'ai déjà suffisamment fait de mal comme ça. » Mais comme quoi, tout le monde peut être tiré au sort.
Et sur la parité, qu'elle soit de genre ou sociale, en fait, ça suffit. C'est bien, je pense que comme on n'est pas capable de le faire de nous-mêmes, il vaut mieux qu'il y ait des lois qui imposent.
Ouais. Okay.
Et on a vu que ça a quand même permis à ce qu'il y ait une représentation peut-être moins caricaturale.
Mm-hmm.
Mais ceci dit, on sent bien que ça ne suffit pas du tout, quoi. Parce que pour que, d'abord, les milieux sociaux défavorisés participent à la vie politique, c'est-à-dire qu'ils aient la disponibilité de le faire, ça suppose quand même... qu'il y ait un statut de l'élu, un revenu et même un travail qui soit organisé différemment de manière à libérer des tas de gens qui ont des boulots plutôt prenants, tu vois, 5 jours par semaine.
Mais tu sais quoi, les gars qui faisaient
donc,
ça
Oui.
Au bout d'un moment, ils payaient les gars parce que les gars, ils étaient dans les champs, ils faisaient pas...
Pour la participation des femmes, le quota, ça suffit pas juste. Parce qu'en fait, on sait très bien que derrière, c'est la question de la charge de travail, la charge mentale et tout ça. Donc, comment tu réorganises la vie sociale? Donc, ça suppose, encore une fois, une question de réorganisation de la vie sociale qui permet de rendre crédible une forme démocratique plus élaborée. Sinon, après, tu fais presque semblant, en fait. Tu vas dire, ben voilà, il faut ça.
C'est du marketing.
Et tu changes pas l'organisation de la société qui ne permettra pas, de toute façon, cela, tu as plus de femmes. Et encore, c'est plus compliqué que ça.
Oui.
Les listes sont paritaires, mais on s'aperçoit que souvent, la tête de liste, elle est masculine.
Donc,
du coup, au niveau des élus, mairie et tout ça, tu auras plus de mecs.
Mais on peut dire que c'est quand même une bonne...
Mais tu as quand même une avancée. C'est sûr que les assemblées
Mais
tu rends bien compte que même au niveau des femmes, finalement, la participation des femmes, elle s'améliore, mais ça reste un milieu social plutôt favorisé.
Oui.
C'est rarement les milieux précaires et les milieux dans les quartiers populaires, n'en parlons pas, alors que les milieux populaires militent, mais dans les assos. Mais rarement, elles seront impliquées dans des... Donc, du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à discuter, pas juste de la structuration politique, encore une fois, mais de la question des rapports sociaux.
Ça suffit pas. Je crois qu'on est d'accord.
Ah, tu vois, c'est... enfin, faire 2-3 plages de plus, quoi.
Bah attends, regarde, il y a tout ça déjà. Ouais, non, mais franchement, on a de la place, on a de la place. Des vraies idées à débattre. Question pour Monsieur Poutou. Pensez-vous que le peuple... est-ce que je peux remonter le chat? Ça va trop vite. Pensez-vous que le peuple dans un Sénat citoyen sera rationnel et pas sensible à la corruption ou aux sentiments? Drame dans les faits divers, etc. Par exemple. Je pose la question car c'est souvent un argument contre la démocratie locale. Ah ouais, c'est pas mal.
Ouais, mais la corruption, après, on peut imaginer que la corruption, elle n'est pas juste liée au capitalisme ou au système tel qu'il est aujourd'hui. Mais ceci dit, quand même, c'est très lié au fait qu'il y en a qui possèdent. Et qu'il y en a quand même un pouvoir sur les autres. Si on arrive à construire une société vraiment démocratique, s'il n'y a pas de gens qui ont des moyens de pouvoir sur les autres, on ne voit pas comment la corruption peut fonctionner, en fait. D'ailleurs, c'était, on a vu l'exemple un petit peu inverse quand même avec la bureaucratisation de l'État ouvrier soviétique, hein, où tu n'avais plus l'avantage du bourgeois qui possède, mais tu as eu quand même l'avantage du bureaucrate parce qu'il était dans telle situation de responsabilité. Mmh. Il avait droit, il se prenait des avantages, et c'est ça qui fait qu'il y a eu petit à petit une bureaucratie
qui s'est
constituée. Mais c'était pas tout à fait pareil quand même, quoi, parce que le bureaucrate ne possède pas. Il tirait son avantage uniquement de sa position dans l'organisation, tu vois. Et donc ça changeait quand même la nature de mais la corruption existait quand même. Mais bon, si c'est pour ça que si ça suppose quand même encore une fois une réorganisation profonde de la société.
Mais évidemment, c'est ce qu'on est en train de faire.
Et on peut penser que la corruption telle que la question est posée, ça pourrait s'améliorer, mais ça veut dire qu'il faut être hyper vigilant en permanence. Et seul le contrôle collectif peut empêcher ça, en fait.
On est bien d'accord.
Parce que je pense que tout le monde sera tenté de prendre un truc en plus, ou des statuettes que tu veux garder.
Des petits cadeaux.
Des diamants, des petits diamants de Bokassa, tout ça.
Puisqu'on parle corruption, est-ce qu'on peut faire un petit point quand même à Philippe Poutou, François Fillon? Parce que je refais de la pub pour ton bouquin. Tu m'as dit qu'il était plus
édité. On n'en a pas parlé du tout.
On n'en a pas parlé parce qu'on est parti sur les questions du chat et c'était parfois aussi intéressant.
Puis on n'est pas en promotion
mais
du tout.
On n'est pas en promotion aussi. Il est sorti il y a longtemps. Mais en vrai, il est vachement bien. Déjà parce qu'il est bien écrit, il est hyper agréable à lire, il est drôle, il est vraiment éclairant sur moi pourquoi je t'aime bien depuis le début et on s'est rencontrés, on a sympathisé. Parce que j'ai toujours imaginé que t'étais un gars qui arrivait dans une pièce de théâtre. Où tous les rôles, c'est tout. Déjà, tout le monde a le même costume. Alors, c'est vraiment, ça s'appelle littéralement un costume. T'as déjà pas le bon costume. T'as pas le bon texte. Tu sais, t'es là, merde, vous êtes qui, monsieur? Tu vois, c'est un mec qui débarque dans Antigone. En fait, il est avec un chapeau, un grelot, et tout le monde fait. Je pense que vous n'avez rien à faire ici. Et pourtant, ce que tu représentais, et ce que t'étais, en fait, c'était la réalité. T'étais un gars qui bossait à l'usine, et tu te disais, ben attendez, je viens de la réalité. Et ça se passe pas du tout comme dans votre délire. Et donc, ce bouquin, il raconte ça et plein d'autres choses. Et du coup, est-ce qu'on peut revenir sur ton moment? Est-ce qu'on te parle encore dans la rue de ce moment où t'attrapes Fillon par le col et Marine Le Pen en leur disant « C'est resté ta Coupe du Monde 98 ».
C'est un peu je compare toujours à... Comment il s'appelait le chanteur finlandais là? This is the ball.
Attends, on va demander au chat. Ça, c'est bien parce qu'on peut demander au chat.
This is the ball. Je ne me rappelle même pas.
Ah, je connais pas.
Un chanteur qui a fait qu'un seul tube.
Qui a fait qu'un seul tube. Patrick Hernandez. Et il dit. Don't be alive.
C'est bon.
Il l'avait.
J'ai vécu. tout. Et je crois qu'il est décédé maintenant. Mais il a vécu.
Alors, Gérard.
Sur cette chanson.
Non, Patrick.
C'est Patrick.
Patrick. Ouais. Si t'es décédé. Pardon. Si t'es pas décédé, encore plus pardon.
Et comme on l'entend plus trop chanter. Et donc,
le chat, est-ce que vous pouvez dire s'il est décédé?
Cette chanson qui l'a fait vivre.
Oui. Donc ça, c'est
moi, je dis que cette phrase-là, c'est ça sera sans ma tombe, je pense. Oui, il y en a plein qui en parlent, mais même des jeunes qui ont 18, 19 ans, ça, en plus, moi, je suis dans une librairie, donc du coup, il y a des gens qui viennent, et beaucoup parlent, pas que de cette phrase-là, mais il y a d'autres petites phrases, mais qui circulent encore sur les réseaux sociaux, tu vois. Mais ce qui est marrant, c'est que tu as des jeunes qui ont aujourd'hui 18, 20 ans, par exemple, ou 22,
qui te connaissent,
qui n'ont pas vécu ça, parce que c'était il y a 10 ans. où ils l'ont vécu.
C'est leur part, hein. Et puis, je me souviens où j'étais quand.
Parce que ça circule en fait. Ouais. Donc oui, bien sûr, ça. Mais ce qui est intéressant, c'est au-delà du buzz, parce qu'après, du coup, ça devient le truc. La super phrase. C'est pas une super phrase en fait. C'est un truc quand qui sort. Si. C'est un truc qui sort.
Est-ce que c'est un peu préparé ou
Non, justement. C'est ce que on le voit quand même, parce que tu te moques souvent de oui. moi quand
avec
je dis
cette phrase
ce que je l'ai dit, ce que j'ai dit, ouais. je l'ai dit.
Attends, est-ce qu'on peut revenir avant? C'est-à-dire que quand tu arrives au moment, et tu le racontes dans le livre, il me semble, si ma mémoire est bonne, quand tu arrives sur le plateau, dans les coulisses, tu as une consigne. Tous les candidats et candidates ont une consigne, c'est.
Alors, je ne sais pas si tout le monde a eu droit à la montrer, mais dans la loge, juste avant le début de l'émission, il y a les deux journalistes qui animaient le débat, c'était Ferrari et Rutel Krief.
Ok.
Laurence Ferrari et Rutel Krief. Ah, elles viennent me voir dans la loge. Et elles disent bonjour, ça va, j'espère que vous allez bien.
On est content de
vous
savoir.
Ils n'en rajoutent pas trop de temps. Et puis en disant on voulait s'assurer que vous avez bien compris les règles de l'émission. Donc en fait, chaque question en fait, avait trois grands thèmes et trois sous-thèmes par grand thème. Donc tu avais neuf moments d'intervention. Et donc, c'était neuf questions et tu avais comme des tiroirs. Quoi.
Ouais.
Donc elle disait voilà, vous avez bien travaillé. Et vous répondez, en fait, le but, c'est de défendre votre programme.
C'était cadré,
votre programme de campagne, de candidat, machin. Et donc, après, à côté de ça, il faut éviter. Et la règle, c'est qu'on n'attaque pas les autres. Voilà. Il ne faut pas attaquer les autres parce que ce n'est pas ça un débat.
Tu n'avais pas la bonne définition.
Voilà, donc ça commence comme ça. Donc là, ils mettent la petite pression comme ça.
Et toi, est-ce que à ce moment-là, tu te dis hop, je fais comme ça.
Est-ce qu'on raconte dans le bouquin un aspect du bouquin, parce que le bouquin, comme tu dis, c'est on a une expérience très particulière. On fait des campagnes et donc on fréquente les médias. Ce sont des outils, les médias, les gros médias, des outils qu'on ne connaît pas du tout, puisque en temps normal, on est ignoré par les médias. Et il se trouve que l'élection présidentielle, c'est sa particularité, les médias sont obligés d'inviter tous les candidats.
Et oui.
Apparemment, ils ont leur parrainage,
ouais,
évidemment.
C'est ouais.
Et c'est pour ça qu'on apparaît dans la phase de la campagne officielle, parce que c'est quand on a le parrainage. Et puis, la dernière semaine, les deux dernières semaines, c'est le moment de l'équité et de l'égalité du temps de parole. Et donc là, on apparaît. Mais parce qu'ils sont obligés de nous inviter.
Oui, bien sûr. Ouais.
Voilà. Donc, c'est une expérience très particulière et on a voulu la raconter dans ce livre. En disant, voilà, il y a ce que vous voyez, vous, et puis nous, on voudrait vous raconter des petites histoires, comment ça se passe, comment on est bien reçu, le bien entre guillemets.
Ouais.
Évidemment, et puis tout ce qu'on peut analyser qui relève de la sociologie un peu de Bourdieu, quoi, qui lui a déjà décrit ça. C'est-à-dire, comment on est un corps étranger en fait.
Ouais,
on arrive à un endroit où on n'est pas du tout invité, on est censé
alors
pas
tu viens
là.
Du réel, quoi.
Et donc du coup, ça crée des situations particulière, et c'est ce qu'on essaie de raconter, donc à la fois le côté un peu croustillant, on va dire,
parce que c'est la petite anecdote,
de comment ça se passe et tout ça, et puis en même temps d'essayer d'analyser ça, et surtout l'idée c'était de faire en sorte que ce qu'on a vécu là, ça soit un peu utile dans les milieux militants, c'est-à-dire qu'on puisse, que ça soit un sujet emparé, parce qu'on n'en discute pas en fait, le rapport des orgas comme les nôtres, mais même de l'ensemble de la gauche, on discute jamais, on n'a pas de débat sur quel type de rapport on peut avoir avec les médias dominants. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Si on y va, comment on fait? Comment on se comporte? Et on pense que ce serait utile. C'est une question politique. La question du média, qu'est-ce que c'est notre perspective on pense que ce serait quoi un média démocratique? D'ailleurs, ça forcément...
Il y aura une convention citoyenne sur l'information.
Et donc, le bouquin raconte ça. Un essai, c'est un tout petit bouquin. Hein, ça fait,
on
n'a pas été capable de faire plus de 200 pages.
Non, mais c'est vraiment intéressant pour voir de l'intérieur comment ça se passe. Et pour revenir donc sur le fameux moment, c'est pour que tu disais que je me moque de toi, c'est parce que ma phrase préférée de toi dans ce moment-là, c'est que à un moment donné, elle se rend compte que tu es en train de défoncer tout le monde, et genre, c'est la maîtresse d'école, elle fait vraiment Monsieur Poutou, qu'est-ce qu'on a dit, tu vois, c'était quoi qu'on avait dit dans les coulisses.
Petite pression.
Et tu réponds cette réplique légendaire. Oui, bon, ce que j'ai dit, je l'ai dit. Genre, en gros, trop tard, c'est en direct, qu'est-ce que tu as à faire?
Presque
et
à regretter.
Que et les gens applaudissent. Dans l'assistance, alors que c'est que des staffs de campagne.
Ouais. Même du côté de Macron, ça avait applaudi.
Tellement la réplique était. Ils étaient. Et donc, Rutel Krief et Laurence Ferrari disaient non, pas d'applaudissements.
Ouais.
Et. C'est à cause de toi qu'il n'y a plus jamais eu.
On peut penser ça, ouais.
Bah, c'est sûr et certain.
Ça n'a jamais été dit clairement, mais d'abord, juste le petit truc.
Oui, vas-y.
C'est que sur l'émission, je dis des choses comme ça, tu vois, sur Philippe, sur Macron, mais je flippe en permanence, en fait. Parce que c'est pas simple, tu sais, c'est facile de, on peut dire, ouais, un révolutionnaire, t'as une grande gueule, t'en fous, tu machin. Ben non, c'est pas comme ça que ça se passe en
oui,
fait.
Oui, oui, oui.
T'es dans un endroit, tu te fais tout petit parce qu'on te fait ressentir que t'es tout petit en fait. Et on te fait bien ressentir, mais pas par la parole, tu vois, c'est par le comportement, c'est ce qu'on essaie de raconter. C'est que t'es pas bien, quoi, en fait. T'es dans un milieu, c'est pas du tout chez toi et on te le fait comprendre, quoi. Donc il y a ça, et donc tu flippes de ce que tu dis, et c'est quand Fillon il dit je vais vous foutre un procès, et là tu dis waouh, alors que t'as envie de le défoncer en fait. Mais après t'as l'autre truc qui
c'est
se joue.
L'intimidation, quoi.
T'as un autre truc qui se joue, c'est qu'en fait t'es porte-parole d'une organisation, et t'as pas envie, toi, de faire le truc qu'il faudrait pas faire, et de mettre l'image de l'orga, tu vois. Donc t'as aussi ce stress-là. C'est pas juste la peur du pouvoir qui va te sanctionner, c'est de faire bien, là, de pas être con, quoi, ou gauchiste, ou tu vois,
De pas être caricatural et
ouais,
en
de,
même temps de
ouais,
placer
ouais,
ce que tu as à
t'as envie,
placer, ouais.
et donc c'est trouver le et là tu as toujours peur de pas bien faire le boulot, quoi, parce que c'est une mission militante,
Mais
quoi.
quand même, la structure est quand même est pas faite pour des gens comme toi, quoi.
Et la question d'après, c'était, ça, là on revient sur le
Je
fait,
m'en rappelle plus
tu
du
m'as
tout.
posé une autre question sur
C'était, est-ce qu'on t'en parle encore? Tout ça, mais t'as répondu. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il faudrait pas l'organiser sur nos médias à nous? Ah oui, faire un. Bah oui, mais va convaincre, je sais pas qui,
Non, par
Édouard
contre,
Philippe ou Gabriel Attal de venir sur Blast
ce qui
débattre.
serait bien, c'est pas un débat avec tous ces connards, voilà,
Oui.
avec tous ces
Pour
réacs,
résumer, pour
on s'en
résumer.
fout. Mais par
Oui.
contre, ce qui nous manque, c'est un débat des candidats, enfin, en tout cas, des organisations de gauche, y compris
Ouais, mais
même.
une primaire et tout.
Non,
En
non,
fait,
non,
c'est pour
non,
ça
pas une
aussi
primaire.
qu'on.
Prendre l'habitude de discuter de ce qu'on veut, de pourquoi on veut, quelle gauche on voudrait.
Oui, mais là où on en revient à la Ve République à chaque fois, je reviens sur ma thématique de live, mais c'est qu'il faut quand même un gugus sur l'affiche, ou une gugus, mais
Ouais.
c'est souvent un gugus.
Ça,
Et ça,
parce que la
ça
règle,
nous
c'est
piège
ça.
en fait.
Là, c'est la règle
Donc
aujourd'hui.
là, on le voit, ils veulent tous être sur l'affiche,
Ouais.
Ruffin, Mélenchon évidemment, bah vous, on verra s'il y a des gens au
Mais
NPA.
sur les débats, là, quand tu dis, oui, c'était ça ta
Ouais,
question. Il n'y a plus de débat, c'était à cause de moi qu'il n'y en a plus. Hein. C'était la première fois
grâce à toi.
c'est la première fois qu'il y en avait un,
Oui.
où tous les candidats étaient là en même temps,
Ouais.
et c'était la dernière fois.
Ouais.
Et nous, on pense que c'est lié à ce que j'ai pu dire ce
Oui.
soir-là, parce que le lendemain de ce débat-là, donc il y avait une réunion à 9h ou à 10h, je ne me rappelle pas, où chacun des candidats ou chacune des candidates était représentée par quelqu'un de son équipe. Et
Ah
c'était
oui.
pour préparer la suite qui devait avoir lieu 2 semaines après, pile,
Ah, je me souviens.
sur France 2. Parce que là,
Ouais.
c'était les chaînes privées,
Oui.
BFM, ITélé.
Ouais.
Et 15 jours après, c'était prévu France 2 et France 3, je pense. Mais bon, au moins
D'accord.
France 2. Et donc, la discussion du lendemain, c'était d'organiser la suite. Et dès le départ de la réunion, ça, c'est le
Ah.
camarade qui est allé représenter. Et il y en a qui ont dit, non, mais des débats comme ça, plus jamais.
Ouais, d'accord. Ouais.
Et beaucoup ont dit ça, la plupart, des gros. Hein, et du coup, ben, France 2 a abandonné ce type de projet et l'a
Mais
transformé.
c'est hyper intéressant.
C'est devenu, je sais pas si tu te rappelles, c'est devenu, bon, d'abord hyper chiant,
Oui,
parce
c'était
que c'était chacun
Andorian,
à tour de
chacun son
rôle.
tour.
Et bon, moi, tu passais à tour de rôle, tu étais interviewé par Pujadas et Salamé,
Ouais.
mais c'était, bon, on va dire 10 minutes chacun à tour de
Il
rôle.
fallait amener
Et il
un
y avait
après et tout.
juste la dernière phase en conclusion où tout le monde était ensemble,
Ouais.
mais c'était ensemble pour juste faire une conclusion de 2 minutes,
Ouais.
je sais plus quoi. Et là, t'as vraiment pas le temps de t'amuser avec les autres,
T'as
quoi. Tu vois,
pas,
et là, tu t'emmerdes, tu fais
ouais.
pas joujou, c'est chiant,
Mais
quoi.
attends, c'est intéressant parce que ça veut vraiment dire qu'ils ont eu peur de toi.
Mais je dirais pas ça comme ça.
Ben en fait, si, c'est exactement ce qui s'est
Mais c'est
passé.
parce qu'en fait, c'est étonnant d'ailleurs.
Ah, c'est pas
Parce
étonnant.
que non, mais ce qui est étonnant, c'est
Tu me fais
que bon,
peur. Là, tu me fais peur, je
moi je l'ai
t'attends
vu au
qui?
Conseil Métropole, tu vois, et au Conseil Municipal de Bordeaux. Bon, c'est à une échelle autre, hein.
Ouais.
Tu te retrouves avec des gens de droite ou des gens de gauche qui font de la politique depuis longtemps, qui sont élus depuis longtemps pour la plupart, tu vois. Ils sont incapables de discuter politique. Parce que moi, je voyais quand on faisait des interventions, tu vois, même sur la Palestine, en lien évidemment avec l'activité municipale, puisqu'il y a des subventions, machin. Bon, c'était jamais, on n'était pas hors sujet. On essayait de poser des problèmes politiquement, la question de l'urbanisme, la question de la gentrification, enfin, tout ce qui était question de classe, en fait, tu vois, où
C'est pas déconnant, quoi, tu vois.
les budgets, c'est pas juste une histoire de gestion, c'est aussi une histoire politique. Mais comme ils dépolitisent tout, et qu'en fait ils en font juste une affaire de gestionnaire, et qu'on fait pas de politique ici, vous trompez l'Assemblée.
On fait pas de politique au conseil municipal.
C'est là-bas, c'est là-haut à Paris, ouais. Que vous avez, c'est pas ici.
Alors que c'est la répartition.
Et
là,
et donc tu t'aperçois que même à ce niveau-là, mais c'est vrai, ils sont pas capables, ils sont pas à l'aise.
Ouais.
Ils discutent pas politique, ils sont tellement dans une posture autre de l'élu dévoué à la République qui va aider.
Ça va changer hein, avec la nouvelle constitution. Ouais, ça va. Ouais.
Et donc c'est
mais
pour ça que c'est quelque
même,
chose qu'ils savent pas faire, qu'ils maîtrisent pas, et c'est vrai que
un élu
berlu comme.
Ah mais c'est Philippe, il parle beaucoup.
Ouais, un élu berlu comme nous, ça les dérange en fait. C'est pas de la peur, hein, c'est que
ça les. Oui, ça les emmerde quand même.
Ça les emmerde. Enfin, ouais.
Qu'est-ce qu'ils disent les modérateurs? Qu'est-ce que j'ai mal fait? L'idée de faire des débats sur les médias, question des médias, l'information. Les propositions de l'écrivain là. Ouais, vas-y, il nous reste une demi-heure. On va finir. Bah oui, on va finir par là. Mais ouais, mais c'est. Je trouve tout est quand même intéressant dans l'expérience de Philippe. Et là, tiens, tu t'es décalé.
Ah ouais, mince. Ouais. Je suis un peu hors cadre.
À l'extrême.
T'as vu, je reprends.
De l'extrême gauche. Bravo le chat, on a réussi. Lisez le site par pitié, c'est vrai que les gens, ils sont bossés. Et nous, on est là, oui, on va le déclasser à la banque. Alors, ok, ouais. Alors il y a des propositions. On va reprendre ce petit. Donc, la petite synthèse. Attends, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Donc, je vais voir par quoi on peut commencer. Donc là, c'est la démocratie directe, on l'a un peu évoqué. Sanctuariser l'environnement, tiens, on va parler de l'environnement. Il y a l'idée de sanctuariser l'environnement et les biens communs. Donc, sanctuariser, c'est de se dire,
c'est là,
il y a une priorité. Par exemple, j'ai vu passer dans les propositions l'idée d'un conseil scientifique sur l'environnement, par exemple, qui est un conseil d'experts, de climatologues, océanographes, enfin, voilà, de scientifiques, de spécialistes. Qui aurait un peu la même fonction que le Conseil constitutionnel aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu votes une loi, ça passerait par ce conseil-là qui dirait « bah non, là, c'est un petit peu de la merde ». Toi, en tant que, quand même, mec qui dit qu'il faut que ça vienne par le bas, est-ce que c'est un truc qui te va, qui te fait flipper, cette espèce de censure par les experts?
On a une très mauvaise image des experts.
Mais c'est ça, c'est pour ça que je pose la question. Et ça fait partie des propositions. Comme ça, le chat est content.
Il défile sur les plateaux médias.
Après, ça dépend ce qu'on appelle les experts.
Mais c'est surtout que beaucoup se disent experts et puis qu'en fait, ils ne le sont pas en réalité. Mais c'est sûr que.
Mais imaginons que c'est
que des scientifiques ou des personnes habituées, enfin, qui sont dans la recherche, dans la réflexion et tout ça, ils aient un point de vue peut-être pas. Peut-être pas qu'ils décident par eux-mêmes, mais qu'au moins ils aident à prendre la décision.
Ou qu'ils aient ce pouvoir de
d'éclaircir, d'expliquer.
Ouais, comme le Conseil constitutionnel aujourd'hui.
Ouais,
qui va dire, bah non, ça.
C'est un drôle d'exemple ton truc là, ce Conseil constitutionnel.
Bah en fait, c'est l'idée qui a.
C'est pas le truc qui fait rêver quand même, ça.
Non, mais ça serait à dispositif. Mais il est chez toi,
ça. C'est pas ce genre de.
Non, mais c'est l'idée qu'une fois que tu as voté une loi. Si la Convention citoyenne dit que oui, non, il faudrait du diesel.
Non, mais ça paraît juste de penser que des gens très qui étudient, qui réfléchissent, regardent les spécialistes, les universitaires, les scientifiques et tout ça, ça paraît logique qu'ils aient une position plus importante
dans
le chemin de la décision.
Dans la partie de la gauche que tu représentes, il y a quand même cette méfiance des experts que tu viens d'aborder, qui est parfois quand même très légitime.
Il faut expert.
Mais des fois, il y a aussi un peu ce qu'on disait tout à l'heure, la mythologie du peuple. Qui devrait tout le temps avoir le dernier mot et qui devrait tout le temps décider. Mais parfois, encore faut-il être bien informé.
Donc, il y a aussi les propositions sur l'information. Tu peux imaginer que le milieu scientifique ou le milieu universitaire, ils soient là pour éclairer. Ce qu'il y a aujourd'hui, ça, malheureusement, ça n'existe pas. Ils sont souvent dans leur labo. Ils sont souvent dans leur truc et ils ont pas, y a pas, ça mériterait d'avoir une réflexion sur quel type de lien riche il peut y avoir entre ce milieu-là. Enfin, comment on peut faire des connexions, en fait.
Ouais.
Parce qu'en fait, le milieu, on va dire, le milieu ouvrier, bah, nous, on l'a vu quand on s'est battu, tu sais, quand on a essayé d'empêcher la fermeture de l'usine.
Ouais.
Là, on a constaté la déconnexion qu'il y avait entre ce monde-là, le monde du travail, tu vois, et puis d'autres secteurs de la population avec qui on n'est pas du tout connecté.
Ouais, ouais.
Et on a vu, à travers, par exemple, là, c'est un peu autre chose, mais tu sais, un peu décalé, mais le milieu des artistes ou le milieu du showbiz ou de la culture, quand tu crées un lien, c'est hyper enrichissant. Tu dis, ah ouais, et puis tu te retrouves avec des gens qui ont envie de répondre favorablement, avec des solidarités, tout ça. Et là aussi, avec la question des milieux universitaires ou scientifiques, il n'y a pas du tout de connexion. Donc c'est aussi ça qu'il faudrait travailler, c'est comment tous ces secteurs de la population peuvent être véritablement en contact, discuter, élaborer ensemble. Mais eux, ils peuvent donner une explication et un avis fondé sur un choix à faire. Mais après, ça paraît raisonnable aussi de penser que c'est pas forcément à eux de décider tout seul.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Parce que tu peux avoir une sorte de technicité ou je sais pas quoi. Ouais. Tu as des gens qui vont, on le voit des fois, tu as des scientifiques qui sont un peu prétentieux aussi parce qu'ils connaissent le truc.
Oui, un seul scientifique, ça suffit pas. C'est pour ça qu'un conseil.
Et en plus, on sait qu'il y en a qui pensent que la solution, elle est technique. Et puis, des fois, c'est pas juste que technique, c'est aussi une solution politique. Et là, ça paraît raisonnable de penser que.
Experts, c'est différent scientifique.
La population. Oui, c'est vrai. Et la population, elle doit avoir. Ah oui, c'est vrai.
Parce que je dis pas même ça, je vais me décaler aussi.
Donc, mais bon, c'est pas tout faux, ça pas faux. À enrichir, quoi.
Ouais. Est-ce que vous avez des questions, le chat? Sinon, il y a un autre truc, il y a une autre proposition que j'ai vue, qui était l'interdiction des lobbies. Alors ça me paraissait intéressant d'en discuter, parce que lobby, ça peut aussi être des ONG. Ouais. En fait, c'est des groupes d'influence. Donc, effectivement, des fois, c'est groupes d'influence pour l'industrie de l'armement, mais des fois, c'est des associations d'influence pour, je sais pas, la sauvegarde des kangourous. Non, mais je dis n'importe quoi, mais ça, voilà, c'est des gens qui cherchent à faire avancer.
Après, une association peut être considérée comme un lobby à partir du moment où elle met la pression pour faire entendre un truc. Ouais. Non, le problème du lobby, c'est que c'est complètement opaque. Ouais. C'est surtout ça, c'est qu'on l'a, bon, on le sait, l'Union européenne fonctionne, il y a des lobbyistes en permanence dans les bâtiments de l'Union européenne, et puis c'est eux qui sont même là à rédiger des amendements, à placer des amendements qui correspondent.
Oui, qui les écrivent.
Qui correspondent, ouais, et puis qui. Et c'est le problème du lien. Ah là, ça a augmenté. C'est le problème du lien qu'il peut y avoir entre les élus et puis la classe sociale, la classe économique qui dirige la société. C'est ça le problème du lobbying, c'est pas. Parce qu'une organisation politique,
on est tous un peu influencés.
Est-ce que la dernière, elle s'est pas influencée?
On ne donne jamais notre avis.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est un peu ça.
On se fait engueuler parce qu'on lit pas le chat. L'idée, c'est de faire aussi des allers-retours. Faut que Philippe puisse s'exprimer.
Donc, le lobbying en soi, c'est surtout, encore une fois.
Il y a Arrête de LFI. On va dire quoi. Ah, mais est-ce qu'il y a Mélenchon qui fait son live en même temps que nous? La dernière fois, c'était marrant parce qu'il était en face. Eh non, je crois pas, là, sinon je le verrai sur la gauche. Quoique je suis pas abonné à sa chaîne, je crois. Faut faire la différence entre lobbying et plaidoyer. Ouais, bah oui, intéressant, oui, parce qu'il y a Raid LFI. Ils nous ont raid, ça veut dire qu'ils nous ont. Ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient en train de regarder la chaîne de LFI.
Raid, c'est pas agressif.
Non, raid, c'est pas agressif sur Twitch, ça veut dire que. Ils rejoignent. C'est LFI qui a dit, ah bah tiens, il y a Meurice et Poutou qui sont en train de discuter, donc on vous envoie les viewers.
On peut leur dire
que. Guy, la ramasse, oui, c'est vrai, mais attends, je débute sur Twitch.
Ça serait bien si la FI et Mélenchon ils ouvraient la discussion sur la présidentielle en intégrant les courants à leur gauche.
Ça serait pas mal. Ça serait cool. Est-ce qu'ils sont là, les gens de LFI? Merci LFI. Ça, on est obligé de dire merci à LFI quand même. Plus de 700 personnes, c'est incroyable.
De discuter.
Merci à vous.
Donc, du coup, tu passes à combien alors?
Des promesses, LFI, des promesses, sur des promesses.
Toujours pareil.
On est à 2000, ça n'a pas bougé.
C'est un peu comme la CGT. On est 20 000 à manifester.
Alors, du coup, attends, il y a des gens de LFI, donc tu peux t'adresser à eux. Donc, ce que tu voudrais, c'est que ça discute un petit peu plus.
Il faudrait mettre à plat la question de la présidentielle et de ne pas juste se contenter parce que la FI, c'est la plus grosse organisation à gauche. La plus radicale parmi les grosses candidatures et qu'il faudrait créer une situation où on peut discuter ensemble et on peut faire en sorte que cette candidature-là soit vraiment une candidature de la gauche radicale. La plus large possible, la plus unitaire possible, avec le souci de créer un cadre unitaire qui soit utile pour la suite, pas juste la présidentielle, parce qu'en fait on sait que derrière le combat il va être long et que le combat antifasciste risque de ne pas s'arrêter juste à mai prochain. Donc oui, on a un petit souci là-dessus. On aimerait bien qu'il y ait quelque chose qui se passe.
On était 1500 avant et il nous a envoyé les 600 qui
étaient 600.
Ah, dis donc, la France Insoumise était 600 et nous on était déjà 1500. J'ai l'impression que Philippe Poutou, ça commence à peser dans le game. J'ai vu passer, pour revenir aux propositions qu'il y a eu sur le site internet, le droit au logement, qui est une thématique aussi récurrente dans les droits sociaux, bien sûr, qui s'oppose souvent à l'idée de la propriété privée. Alors, est-ce qu'on abolit complètement la propriété privée? Dans ce cas-là, les gens vont nous dire, ah ben d'accord, ben dans ce cas-là, je vais venir chez toi, puis je vais m'installer sur le canapé, puis on verra bien si c'est pas content. Ou est-ce que... je les imagine avec cette voix-là un peu agaçante. Ou est-ce qu'il y a des choses à faire sur, bah, je sais pas, l'interdiction des résidences secondaires ou la taxation. Toi, t'en es où là-dessus, ton...
Alors moi tout seul, j'en suis nulle part, mais avec
nous, on voilà, en est où nous
plutôt le nous, parce que moi je fais partie de.
Il y a eu tout dans le.
T'as tout un milieu associatif, pas ouais. juste politique là, qui est sur les questions du logement. Mais là, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure. Il y a un paragraphe sur le bien commun. Et on peut considérer que le logement, ça fait partie du bien commun. C'est l'eau, ouais, okay. l'électricité, oui, oui. les énergies,
la base pour vivre,
ouais. ben, la question des services publics. Ouais. Et la question du logement, on pense que bah oui, ça devrait être un service public. Et donc, ça pose la question d'une forme de collectivisation.
Ouais.
Mais ça ne veut pas dire qu'on empêcherait n'importe quelle personne ou famille à posséder sa propre maison ou son propre appart. Mais par contre, oui, ça pose le problème d'empêcher est-ce qu'on puisse avoir plusieurs maisons, plusieurs apparts.
Ouais, là, je vois les propositions, il y a taxation.
C'est peut-être pas du tout cool de faire ça, mais
ça dépend pour qui.
À partir du moment, ben, c'est tout le problème, c'est comme le travail. Tant qu'il y a des gens qui n'ont pas de boulot, il faut partager le travail.
Oui, c'est ça. Ouais.
Donc, c'est
ça
la réduction du basique, temps de travail. Ouais. Enfin, voilà, c'est la partage du travail entre tous et tous. Et ben, la question du logement, ben, tant que les gens ne sont pas tous logés, ben, oui, il faut répartir. Mmh. Et donc, ça suppose ben, les questions de réquisition, les questions de décision administrative et politique autoritaire qui dit, ben non, c'est là, il faut loger les gens.
Donc, on désacralise la propriété privée. Parce que là,
oui,
pour l'instant, il y a un chat perché sur.
Mais le problème, c'est que le logement, c'est une source de spéculation. On le sait. C'est la question de la gentrification des quartiers. En plus, c'est l'occupation d'espaces populaires. Enfin, c'est une sorte de colonisation.
Ouais.
Alors, c'est pas la colonisation au sens. Enfin, si, c'est le même principe en fait.
Oui.
C'est comment ceux qui ont le pouvoir et de l'argent, ils vont prendre, ils vont s'approprier des choses qui en réalité ne leur appartiennent pas. Et c'est pas parce qu'ils ont de l'argent que ça leur appartient. C'est trop facile.
Ah, mais ça, ils ont du mal à comprendre.
Oui, ouais, t'as de l'argent, donc tu peux acheter, ouais. tu peux posséder. Ben ouais. non, c'est du vol quand même.
Parlons argent.
Donc, du coup, c'est logique quand on pose la question du logement.
Ouais.
En plus, le logement, c'est presque avant la question de l'emploi. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux avoir des conditions de vie, enfin, vivre un peu dignement, il te faut,
ouais.
faut un endroit où tu peux être tranquille.
Une base
un peu, sécurité, ouais. Ouais. Donc, oui, il faut. Et c'est obligé qu'à un moment donné, il faudra prendre des décisions autoritaires.
J'ai vu en proposition sur écrivonla.fr interdiction des droits, pas interdiction, mais la question sur les droits de succession. Taxer les héritages, en gros.
Ouais.
Alors ça pose aussi une vraie question, c'est qu'il y a l'argument de dire, bah oui, mais moi j'ai travaillé toute ma vie et je suis parti de rien. Tu vois, il y a des gens comme ça.
Ouais.
Bon, il y a des gens qui bluffent,
ouais.
d'accord. Mais on va dire, on va prendre le cas des gens qui sont sincères, qui ont travaillé toute leur vie pour léguer quelque chose à leur enfant, genre leur petite maison, leur pavillon et tout. Si on dit, bon, ben, on repart tous à zéro, est-ce qu'il n'y a pas une injustice là-dessus? Ma question était très mal posée, mais en fait, vous avez compris le truc.
Mais moi, je ne maîtrise pas du tout ça. Il y en a beaucoup qui réfléchissent là-dessus, sur la question. Il y a même des bouquins qui sont écrits là-dessus. Il y a Piketty qui a travaillé là-dessus, parce que lui, il a constaté que... une grosse partie de la richesse, c'était de l'héritage en fait. C'était plus du travail qui produisait de la richesse, c'était carrément profiter de ce qui avait été capté par les ascendants. Donc ouais, je sais pas trop, mais moi je pense que ça, il faut l'inclure dans une discussion plus large sur la fiscalité en fait.
Ça c'est une réponse de politique ça.
Non mais quand t'as de l'argent, c'est pas juste quand t'hérites, c'est cet argent-là, comment il est distribué déjà dès le départ. Comment tu répartis, comment tu rémunères, comment ça se fait que tu as des accumulations de fortune alors que des tas de gens sont dans la misère, il faudrait revoir tout ça. Quoi.
Oui, bah après,
c'est pas une entrave à la possibilité des gens de s'enrichir. C'est,
suppression de l'héritage et la distribution des richesses.
Tu peux vivre sans être très riche ou tu peux vivre bien sans être riche non plus. Ça, tu peux très bien.
Alors, ça, c'est un argument qui se retourne facilement.
Ouais.
Parce que si tu dis, bah, du coup, tu peux dire à un pauvre, mais non, mais tu peux être heureux, t'as pas besoin de beaucoup d'argent.
Non, mais quand même.
On le tient.
Mais non.
Il a dit un gros.
Non,
grosse tête de droitard.
Quand je dis que t'as pas besoin d'être riche, c'est il te faut au moins une rémunération. Et encore que là, c'est parce qu'on est coincé. Parce que là, il faudrait revenir aux travaux de Bernard Friot et tout ça. Tu sais, le salaire
il retombe sur ses pattes.
Le tout, c'est de vivre dignement.
Oui, non, mais j'ai bien compris.
Dignement, c'est que.
Mais si je me méfie de ce genre d'argument parce que les gens ils disent ah bon. Bon, bah, du coup, t'es heureux là, t'as une pomme et.
Dehors, en plus, là,
il fait bon, t'es bien là.
T'as pas besoin de 4 murs, c'est vrai.
Non, alors, tu vois les gens qui viennent de la France Insoumise, c'est marqué. C'était pas là, mais il y a marqué. Raider de la France Insoumise. Taxer les machines. Ah, taxer les machines, c'était une proposition de Benoît Hamon, je me souviens. tout le monde s'était un peu foutu de sa gueule à l'époque, et au ça final, quoi, avec ça, l'IA, mais tu sais, il disait, comme il y a de l'innovation qui va remplacer le travail humain.
Ouais.
Ce qui se passe avec les IA, tu vois. Ouais. Et lui, il disait, mais c'était en 2017, la fameuse campagne légendaire, lui, il disait, bah, il faudrait taxer les machines. Et Macron s'était foutu de sa gueule en disant, ah bah super, c'est comme ça qu'on va financer l'innovation, on va être à la traîne, ça. Et au final, bah, c'était pas con, parce qu'il y a des machines qui remplacent le travail humain.
Ouais. Et après, ça, c'est le truc jusqu'où ça peut aller, tout ça. C'est, mais, parce qu'en réalité, l'enrichissement du capitaliste, le surprofit, c'est la part de travail non rémunéré.
Bah oui, ça faut
bien savoir. C'est l'exploitation du travail humain. Ouais. Une machine, tu l'exploites pas. Donc, il y a une limite à ça. Donc, taxer la machine, enfin, en soi, c'est possible. Enfin,
mais il y aura peut-être des manifs de machines. L'international des machines, t'en fais quoi? Ah, tu vas être bien emmerdé après.
Ben, ça peut, l'intelligence artificielle, ça peut aller jusque-là, tu crois? Des
machines
qui s'autonomisent et puis qui. Bon, il y en a qui ont raconté ça dans des films, dans des romans.
Ça serait un bon truc de science-fiction. Je pense que ça existe déjà. Ouais.
Mais je pense que. Ben, je sais pas, après, il faudrait avoir encore une fois une discussion peut-être un peu plus large.
C'est on peut pas régler tous les problèmes d'un coup. Non, mais c'est des propositions qui ont été écrites sur le site.
De toute façon, il faut prendre l'argent là où il se trouve, en règle générale, tu sais. Et il y en a, ils ont beaucoup trop d'argent.
Ouais.
Quand t'as trop d'argent, c'est rarement gagné normalement, quoi. Enfin,
il y a une petite arnaque.
Ou en tout cas, il y a un truc qui, alors c'est pas, faut pas s'en prendre comme ça, bêtement, aux footballeurs ou à certains chanteurs ou chanteuses qui gagnent des fortunes et trucs, mais c'est vrai que sans être, parce que là, il n'y a pas de vol en caractérisé, tu vois.
Oui, ils ont mis un flingue.
Mais il y a quelque chose qui va pas quand même.
Ouais.
Ça serait bien qu'il y ait une société où les gens ils vivent à peu près bien et après qu'il y ait des gens riches ou plus riches que d'autres, on s'en fout
complètement. Bonjour les riches.
Mais tant qu'il y a des gens qui sont dans la misère, c'est obligé qu'on ait un regard sur la richesse qui soit quand même pas très cool, quoi. On peut se dire, il y a un souci quelque part, quoi.
Ça, c'est un bon slogan de campagne. La pauvreté, c'est pas cool. Il nous reste une petite dizaine de minutes. Est-ce que vous avez des questions? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, le chat? Parce que sinon, après, vous allez gueuler puisqu'on ne vous a pas assez pris en compte. Mathieu Pigas en pleure devant le stream. Ouais. Et tu sais, Mathieu Pigas, on ne sait pas tellement sa fortune. C'est compliqué de savoir les gens, combien ils ont d'oseille. Il y a des parts dans des sociétés.
Il ne doit pas être si riche que ça parce qu'il n'a pas cotisé au NPA, par exemple. Tu vois, il n'a jamais filé de chèque. Donc, on pense que, il est plutôt, il a l'air de gauche et antifa, tu vois.
Oui.
On s'est dit, s'il nous file pas d'argent, c'est qu'il en a pas beaucoup.
Enfin, je
pense qu'il l'aurait fait.
C'est le premier truc qu'il aurait fait.
Ouais, il l'aurait fait clairement, quoi.
Je pense que ça s'est pas perdu à la poste avec Besancenot, il aurait peut-être détourné du pognon.
C'est vrai qu'Olivier, depuis qu'il distribue plus le courrier, ça marche moins bien.
Bah, voilà. Alors, il est peut-être radin, d'ailleurs. Il a dit sur Baxit qu'il était dans les 2%. Qu'il était dans les 2% de Tax Zuckman quand même. Ah oui, Pigas, je pensais que tu parlais de Philippe.
Il est pour. Ouais. C'est ça, il est pour la Tax Zuckman.
Je crois qu'il a dit ça, ouais. Il a dit ça et qu'il était concerné et que du coup il était quand même.
Bon, alors, la Tax Zuckman, je crois que c'est Pierre-Marie Barré qui l'avait dit dans une chronique.
Qu'est-ce qu'il a dit celui-là encore?
Qu'en fait, c'est l'inverse qu'il faut faire, quoi. On leur laisse 2%.
Ouais.
Tu vois, c'est vrai que 2%, ça serait pour certains.
C'est déjà pas mal. Ils auraient déjà.
Plus que ce que tu
Parce que, comme on l'a dit, on peut très bien vivre avec une pomme. Une chaîne télé de Pigas. Ouais, bon, je sais pas. J'en sais rien. J'ai vu passer ça, mais je n'en sais pas plus. Mmh. Restons sur Philippe et la Constitution. Est-ce que vous aviez des questions sur ce qu'on a dit?
C'est toi qui fais défiler? Non, ça défile tout seul.
Non, ça défile tout seul. Non, les gens, ils commentent beaucoup. Après on vous posera la question de qui. Alors nous on a 2000 personnes qui nous suivent et après on peut justement raid, c'est-à-dire on dit enfin on bascule les gens qui nous suivent sur une autre, c'est nous qui pouvons décider, mais on va les donner à Dufresne.
Comment tu sais?
Tu vois, ça c'est David Dufresne au poste, donc on va on dira
là c'est quoi, c'est
au poste?
Non, là ça marche pas là-bas dessus.
Non, okay. Ouais,
d'accord, au poste,
que au poste dans ceux que je suis, je crois. Ouais, ça doit être ça. Alors attendez, raidé au poste, bon, on va faire ça.
Mais quand tu fais ça, les gens sont pas obligés d'aller.
Je crois qu'automatiquement ça va dessus, puis après ils peuvent se déconnecter. Enfin, ils sont pas enchaînés. Ils ont leur bête Orange Mécanique, sont obligés de regarder du frais. la cause animale, vas-y, on finit sur la cause animale, c'est très bien, très bien. La cause animale, Philippe Poutou, le NPA. Est-ce qu'il ne serait pas complètement à la ramasse?
Non.
Sur la cause animale?
Non, pas complètement à la ramasse.
Un peu à la ramasse?
Non.
Beaucoup à la ramasse?
On l'a été, forcément.
Comment on peut lutter contre toutes les discriminations et oublier?
Ouais, on l'a, mais ça fait longtemps, y compris même à la Ligue.
Ça fait un quart d'heure.
Mais c'est vrai que ça s'affine, ça progresse.
Oui.
Ben, après, c'est mais comme plein de sujets, quoi. Il y a une prise de conscience qui est liée à l'activité de tout un milieu associatif, plus ou moins offensif. Alors, des fois, un peu trop offensif.
C'est parce que les vegans ne sont pas assez offensifs.
Mais non, on a une commission cause animale qui discute de tous les aspects, notamment de l'agriculture intensive, productiviste,
ouais.
Et voilà. Et pas que, la question de comment on s'alimente, des choix qu'on a à faire et comment le choix d'alimentation, c'est un choix politique qui relève d'une cohérence aussi avec les combats qu'on mène. On l'a, ça. Alors après
oui,
il y a un cheminement. Il y a un cheminement.
Il
y a des camarades qui sont beaucoup plus avancés là-dessus, mais c'est vrai partout, et qui essaient de bousculer. C'est un peu générationnel, mais pas que générationnel, parce qu'on s'aperçoit aussi qu'il y a plein de jeunes qui ne s'occupent pas de cette question-là, qui continuent à manger des saucisses sans scrupule. Mais moi, je pense que ça fait partie de... Mais il n'y a pas que la question de la souffrance animale. Il y a plein de discrimination, d'oppression, questions de genre et tout ça. Il y a plein de choses qui sont en train de bousculer une partie du milieu militant et qui permet d'avancer là-dessus.
Philippe Poutou et LFI, c'est pour quand? Il demande les gens.
Non,
en débat, pardon. On veut Philippe Poutou en débat avec LFI.
Ah ouais, mais on est pour la discussion.
Eh ben, invitez-le sur Twitch, Philippe. Ouais. Vous l'invitez sur Twitch, prochain Twitch d'LFI. Et Mélenchon, il fait je crois qu'il fait des lives aussi.
Ouais, sur Twitch. Tout seul, non? Il fait du débat, ça serait bien. Ouais,
Allez, et ce serait pas fun, un débat Philippe contre Méluche sur Twitch? Est-ce que vous êtes chaud? Peut-être que ça serait pas intéressant.
À plusieurs, je pense. Ouais,
plusieurs avec Fillon.
Sinon, ça fait trop duel.
On amène juste Fillon.
Non, à gauche. Non, mais on manque de ça.
Discussion. Oui, la fête, les gens ils sont motivés.
La fête de l'UMA, par exemple, c'est une aberration que la fête de l'UMA, il n'y ait pas à un moment donné un cadre où on se retrouve. En essayant de ne pas trop s'engueuler, mais il y a des fois...
Oui, ça devrait être...
Il y a un endroit où on pourrait mettre en place ce genre de discussion-là, et surtout là, avec la perspective de 2027, si on n'est pas en capacité de créer des cadres où on échange, où on discute, et on essaie de voir comment on peut faire au mieux, comment se démerder au mieux de la prochaine élection, et puis de ce qui va suivre, ça serait quand même con.
Ouais.
Donc, du coup, il y a besoin de ça. Il faudrait faire ça, et le mettre en place, et profiter...
Sandrine Rousseau, il propose les gens. Bah ouais, pourquoi pas Sandrine Rousseau. Bon, ça, je vais pas l'organiser, démerdez-vous. Moi, je suis sur mon dossier constitution.
Ouais, tu peux pas tout faire.
Ah, je peux pas être partout, quoi.
Ouais.
Mais les gens, ils disent que ça serait super. Donc, une idée qui fait son chemin, comme dirait l'autre. Allez, il nous reste 4 petites minutes. Qu'est-ce qu'on va vous prendre comme question? T'as vu, c'est un peu fatigant, en vrai. Hein,
Deux heures de parlotte.
Ouais, pardon, on vous a pas beaucoup pris en compte, le chat. Je vais m'améliorer là-dessus. C'est vrai que je suis... Je débute cette troisième. Alors donc.
Mais c'est vrai que c'est écrit tout petit, des fois, on n'arrive pas à lire.
On est vieux aussi.
Ouais.
Donc, et donc, le 2 juin, avec Eugénie, donc c'est le retour d'Eugénie qui était partie en vadrouille, on se fait un live. Je vais vous dire l'horaire, parce que je dois l'avoir quelque part.
18h.
Ça doit être 17h ou 18h. C'est Antoine Léoman qui nous a fait un raid. Bon, on le saluera.
Ah ouais.
Merci Antoine. La République! C'est Antoine. À 17h, le 2 juin. Donc, c'est quand le 2 juin? C'est la semaine prochaine.
Ouais.
Je vais tout vous dire. Vous n'avez aucune excuse si vous n'êtes pas là. C'est mardi. On se fait un live avec Eugénie et on recentrera sur les propositions de ça. Mais là, je trouvais ça sympa quand même d'avoir Philippe et de pouvoir parler de ton expérience dans le game du... Voilà,
de pas obligé d'avoir que des spécialistes pour discuter de ça.
Quoi. Ouais, on peut parler de ce qui nous plaît, de Quentin Rambard et Fillon, des trucs qui font quand même plaisir, quoi. Ok, et il y aura une rediff. Ouais, on va extraire ça, puis on va mettre sur YouTube. Peut-être pas le début, on essayait les micros et tout, parce que c'est un peu chiant. Mais on va tout mettre sur,
ça bouge
sur
encore,
YouTube. Hein. Ouais, et voilà, on va pouvoir s'arrêter là. C'était trop cool, vous étiez nombreux et nombreuses. Merci. À quelle heure le 2 juin À 17h, pardon. 17h. Il y a cette histoire de Discord, je vais me renseigner. J'avoue que j'étais pas au taquet là-dessus. Je préparais les dernières de la dernière, parce que là, on va partir en tournée, tout ça. Mais je vais m'y intéresser. Là, on est sur une petite montée en puissance. Et déjà, troisième live, il y a quand même un invité de marque. Donc, on est sur une belle montée en puissance. Mais je sais que j'ai encore une marge de progression. Ne vous inquiétez pas, je suis sur le coup. Déjà, techniquement, on va s'améliorer. Déjà, c'est mieux. Hein. Donc, je voudrais remercier Goodway, Prod, Benjamin, Alban et Tristan de m'aider là-dedans, parce que sinon j'en serais vraiment au Minitel. Nos amis les modérateurs et modératrices, j'ai leur nom, Maël Flutz. Vous êtes là encore les amis, oui. Et Captain Dashi d'avoir modéré tout ça, j'espère que c'était pas trop relou, qu'il n'y a pas eu trop de gens emmerdants. Et on vous souhaite une bonne soirée. On vous aime, tout ça, quoi. Philippe, le mot de la fin, je te laisse le mot de la fin.
Au revoir.
Au revoir. Pff, c'est une belle surprésidentielle, incroyable.